Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens vont penser que c'est pas vrai. Florentino vient de m'envoyer un message du mariage de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham. Je vous jure que c'est vrai.
Fabinho qui est moins la lance de lancement, la rampe de lancement.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot qui est on joue comme on s'entraîne.
Évidemment.
Est-ce qu'on donne les clés du wagon à la locomotive à Malinovski?
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans Génération After, spécial drôle de dame. Tous les lundis, 20h-22h, le foot, la musique, la culture, des quatre grands championnats et la langue française aussi. La France accueille ses nouveaux ministres aujourd'hui, journée de passation. Lui aurait pu être ministre des transports, tellement il passe sa vie dedans. Le taxi pour Manchester, le train pour Paris, l'avion pour l'île de Ré ou Mykonos. Salut Julien Laurence.
Salut Thibaut, salut à tous. J'ai failli rater mon train hier matin pour aller, pour aller à Manchester, je te jure, hein, le 8h20 de London Houston. Le gars voulait pas le laisser passer. Il y a un collègue à lui qui est arrivé qui a dit: je vous connais, je vous écoute à la radio.
Oh là là.
Allez-y. J'ai dit: ah, c'est bon, Ricky, il écoute pas RMC, il écoute la radio anglaise, mais même sur RMC. Merci Ricky.
Quelle star, c'est fort.
Incroyable.
Lui aurait pu être ministre du tourisme, tellement il s'est appliqué pour me concocter un petit voyage dans les Pouilles le mois prochain. Salut Yoann Crochet.
Effectivement, et d'ailleurs tu as très bon goût et ça c'est très bien. Salut Thibaut, bonjour à toutes et à tous.
Ouais, je vous dirai en rentrant si t'as bien bossé ou pas. Lui aurait pu être ministre de la Santé, tellement ce mot il le prononce souvent, un verre à la main quand il trinque. Salut Fred Hermel.
Ah oui.
On va ralentir un peu d'ailleurs. Hein.
Ah, regarde. J'ai de l'eau, je dis pas la marque. Là,
oui,
une petite bouteille là.
Comme dirait Julien Cazard, c'est juste un projectile. Tu vas rien faire d'autre. Et enfin, lui aurait pu être notre premier ministre, notre Michel Barnier, parce que c'est le plus vieux, quoi. Salut Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Bon, désolé Paulo. Ça va? Pleine forme?
Bah, Barnier, ouais, moyen quand même.
Ouais,
quand
ouais, ouais, non. L'âge bof, les idées oui, mais l'âge. Ouais. Les ouais, gars.
Ministre de l'économie, j'aurais bien voulu.
Ah ouais? Mais ça aurait fini comment du coup?
Ah ben en grève nationale évidemment.
Allez les gars, votre programme de ce Génération After drôle de dame en 15 secondes, Julien.
On va commencer bien sûr par le gros match d'hier, ce Manchester City Arsenal qui a été assez incroyable du début à la fin. On reviendra aussi sur des équipes qui ne gagnent pas en première ligue. Il y en a beaucoup cette saison, ça m'inquiète un petit peu, et puis on aura une minute assez particulière qui nous rappellera à tous quelques souvenirs.
Johan.
On va revenir sur le derby de Milan, évidemment, le gros match de cette cinquième journée en Italie, avec un peu d'air, enfin un bon bol d'air frais pour Paulo Fonseca, avec un match vraiment maîtrisé. On va revenir sur un autre chantier compliqué à Rome, la Roma, avec une semaine catastrophique à tous les niveaux. D'ailleurs, la Roma a un frérot maintenant, le frérot Julien Laurence, le frérot Everton.
Depuis ah oui, c'est
ce
vrai,
soir,
c'est
parce que les Friedkin, propriétaires de la Roma, ont aussi racheté Everton. Et puis on évoquera malheureusement la disparition du héros du Mondial 90 en Italie.
Fredo, au programme du soir.
Bien entendu, on va parler de la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, rupture du tendon rotulien. Il a été opéré cet après-midi, la saison est terminée. Donc il faut chercher un nouveau gardien. Donc je vais demander aux copains de me proposer et de proposer au Barça de possibles remplaçants pour Ter Stegen. On parlera aussi du nouveau trio d'attaque du Real Madrid. Ils ont marqué chacun et ça commence à bien jouer. Et puis dans la minute, on parlera d'un joueur andalou.
Polo, ton programme.
Bon, on a eu un superbe match hier entre Stuttgart et Dortmund. 5-1, et je suis super content pour Stuttgart. Donc évidemment, on va parler de cette rencontre. Mais le plus important, c'est que les médias allemands, alors qu'on a une superbe journée, ont déjà switché sur ce qui va se passer le week-end prochain, le duel entre le Bayern et Leverkusen. Le temps des géants, comme le dit Kicker. Et voilà, donc c'est un peu le deuxième gros débat qu'on va avoir ce soir. Et puis on aura une minute un peu spéciale.
On est en direct avec les drôles de dames jusqu'à 22h et sur tous ces sujets, vous nous appelez au 32-16, rendez-vous à 21h45, les drôles de dames face à vous. Et je rappelle qu'on est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée. Vous verrez par exemple Nico Jamin qui est déjà là, qui sera aux commandes du 22 minuit. Salut Nico.
Salut Thibaut, salut les drôles de dames.
Alors,
On nous fait les infidélités.
Salut le traître.
C'est une famille l'after de 20h à minuit, qu'est-ce que tu racontes?
Faut choisir son heure, c'est tout.
Ben c'est ça, écoute.
On ne sait pas comment on va te recevoir la semaine prochaine.
J'adore rentrer chez moi tard le soir après minuit.
C'est ça.
Je passe une soirée tranquille.
Alors si ça, on peut s'arranger hein, si tu veux rentrer tard chez toi.
Au programme de l'after à 22h, Thibaut, on va revenir sur le gros coup de gueule de Mehdi Bellassi à la mi-temps de cette OLOM. Est-il allé trop loin, le patron, le conseiller sportif de Pablo Longoria? Débat à venir. Et puis aussi Lyon au programme, bien sûr, giflé hier, humilié par 10 Marseillais. Est-ce la crise à Lyon? Daniel arrivera avec ses infos également. Vestiaire lyonnais. Avis de Daniel aussi sur le Paris Saint-Germain. Attention, Polo, c'est pour toi. Luis Enrique, c'est le football communiste. Tant dire que pour l'esprit Daniel, c'est pas très positif. Ce sera à partir de 23h. Et puis l'avis de Flo Gautreau. Le 3-5-2, c'est le schéma des entraîneurs qui flippent aujourd'hui en Ligue 1. Présumé au départ offensif, c'est devenu maintenant un repli défensif pour certains. Ah oui.
Ce qui n'est pas faux.
T'intéresse. Ouais. C'est pour l'after à partir de 22h.
A tout à l'heure, Nico.
À tout à l'heure, les gars.
Avec Daniel Riolo et Flo Gautreau. Il est 20h07, vous êtes sur RMC Génération After spécial Drôle de Dame, comme tous les lundis, 20h, 22h, et commençons par le choc du week-end que l'on attendait tous et qui a tenu ses promesses, enfin, au moins sur le résultat final, le nombre de buts. Ce Manchester City-Arsenal, sur le nombre de buts et sur le scénario aussi, Julien, avec cette égalisation au bout du temps additionnel.
Ouais, assez incroyable. J'ai trouvé, moi, du début à la fin, sincèrement, c'est un match qu'on attendait beaucoup, même si c'est assez tôt dans la saison, finalement, entre les deux, là, cette nouvelle rivalité, on va dire, entre premier et second des deux dernières saisons, des deux derniers championnats, qu'on attend encore jusqu'au bout, un mano à mano, peut-être un petit peu avec Liverpool, mais en tout cas, voilà, ça devrait être encore entre eux que va jouer ce titre de Premier League. Donc, on attendait beaucoup de ce match de Guardiola contre Arteta, bien sûr, de Haaland contre Saliba, tous les match-ups qu'on pouvait trouver à droite, à gauche, partout, dans un Etihad rempli, sous la pluie, bien sûr, parce qu'hier, il a pas arrêté de pleuvoir à Manchester. Et on n'a pas été déçus. Sincèrement, il s'est passé quelque chose à tous les niveaux, du début à la fin. On a eu ce but très tôt, d'ailleurs. Déjà, avant le début du match, on a eu la nouvelle que Calafiori débutait pour la première fois pour Arsenal. Bon, Johan, j'ai pensé à toi, arrière-gauche. Ça veut dire Ben White sur le banc. Ça veut dire aussi Timber à droite. Donc, Arsenal changeait 50% de sa défense. Même s'il y avait qu'un joueur qui arrivait, tu changeais Timber de gauche à droite, tu mettais Calafiori. Donc, voilà. Et puis, au bout de quelques minutes, simplement, il y a ce but de Haaland, le centième. Pour lui à Manchester City, 100 buts en 105 matchs. Donc là, j'ai pensé à toi, Polo, en me disant, quoi. Donc après, Johan, c'était Polo. Tout
monde, j'espère que t'as pensé 100... à Polo, sinon il va être jaloux. Hein.
Bah, tu verras. Il okay. Faut que t'attendes la fin du.
J'attends très souvent à moi.
Je pense très souvent à toi, mon Fredo. Et donc je me dis, voilà, Haaland, 100 buts en 105 matchs. Alfie était là, bien sûr. On a les Scandinaves, ils avaient ramené tout le monde. Il y avait du Peter Schmeichel, il y avait du Freddy Ljungberg, il y avait du Fjortoff, il y avait Alfie Haaland, il y avait tout le monde qui était là. 100 buts en 105 matchs, toutes compétitions confondues, énorme, vraiment énorme. En plus, il finit bien cette occasion donnée par Savinho. Après, il y a la blessure de Rodri. J'ai pensé à toi, mon Fredo, parce que tout de suite, on a vu que c'était grave. Et il se met pas à pleurer tout seul, Rodri, si c'est pas grave. Hein. Guardiola l'avait dit après le match. Il avait dit, j'ai pas de nouvelles, mais je peux vous dire que s'il a demandé à sortir, c'est que ça doit être assez grave quand même. Et on a eu la confirmation aujourd'hui qu'effectivement, c'est très grave. Malheureusement, un autre genou qui part en vrille comme ça, c'est très, très triste, vraiment. Et puis après, on a eu le but de Calafiori extraordinaire, lui qui avait fait une erreur sur le premier but. On a vu Gabriel encore marquer de la tête. On a vu une équipe d'Arsenal bien meilleure à 11 contre 11 contre City à l'Etihad. Et puis ce carton rouge de Trossard qui fait faute déjà sur Bernardo, qui dégage le ballon. Est-ce qu'il dégage vraiment? Est-ce qu'il n'entend pas le coup de sifflet? Est-ce que tu as vraiment besoin de donner un deuxième jaune comme ça? Je sais pas vraiment si c'est la règle, c'est la loi, mais est-ce que parfois tu dois pas utiliser un petit peu de... Je sais pas moi, de ton jugement à toi en tant qu'arbitre. Voilà, donc on a eu une seconde période à 11 contre 10 qui était une attaque-défense, véritablement, où j'étais un petit peu déçu quand même par Manchester City dans son incapacité à se créer des vraies occasions. À 11 contre 10, ils ont eu 93% de possession à un moment dans la seconde période, c'est incroyable. Ouais. Et au final, ils ont attendu la 98e minute pour marquer sur un petit coup de billard qui fait qu'un 2-2, il est beau finalement. Moi, je trouve qu'il est beau parce qu'il est frustrant pour tout le monde. T'es frustré si t'es Arsenal parce que t'étais si près d'une première victoire en 10 ans quasiment. Ça faisait 2 ans que City n'avait pas perdu à domicile, toutes compétitions confondues, et ils ont toujours pas perdu. Et si c'était City, t'es un peu frustré parce qu'à 11 contre 10 pendant 45 minutes, tu peux pas vraiment te satisfaire d'un match nul de partout.
Ouais, et puis il y a cette deuxième période, moi c'est celle-ci qui m'a déçu, mais est-ce que tu penses qu'en fait c'est le carton rouge qui donne ce scénario pour ce match, cette attaque défense, ce 90-10 de possession? Tu penses qu'Arsenal aurait pu mieux faire? Parce que voilà, la deuxième période c'était un,
je sais pas, sincèrement,
c'était un bus quoi, c'était vraiment...
Ouais, alors moi je sais pas la télé comment ça a donné, mais j'ai dit à la radio anglaise après le match, j'ai dit peut-être qu'à la télé c'était... Vous êtes embêté quoi. Je sais pas comment ça, un tel attaque défense entre deux équipes si fortes, ouais, avec des joueurs si forts, je sais pas ce que ça donne à la télé. Ouais, ça, mais nous dans le stade c'était incroyable. Je te jure, c'était tout le monde était, tu sentais qu'il y avait, c'était nerveux, il y avait de la tension partout sur le terrain, sur les bancs de touche, dans les tribunes, partout quoi. C'était même côté Arsenal alors qu'ils menaient 2-1 et que voilà, mais c'était de la, sincèrement c'était vraiment de la folie. Vincent Duluc était là pour l'équipe, il y avait Samir Nasri, Kolo Touré, Robert Pires qui était là aussi pour les anciens joueurs que les auditeurs connaissent. Mais voilà, à la fin, tout le monde disait waouh, c'était, mais voilà, qu'est-ce qu'on a vécu. Mais je sais qu'à la télé, ça devait être différent. Je sais pas si Arsenal peut jouer différemment. Si, bien sûr, tu peux tenter de jouer différemment, mais je pense que tu prends une volée. Je pense que si tu te mets à jouer à 10 contre 11 contre cette équipe-là à l'Etihad, tu prends une volée. Après, c'était fascinant la conférence de presse de Guardiola d'après-match où il dit sincèrement, je savais pas quoi faire. C'est la première fois de ma vie que j'entends Pep Guardiola dire j'ai douté. J'ai douté de moi-même, de mes choix, je savais pas quoi faire, est-ce que je devais bouger un Ruben Dias, un Kyle Walker, qui je devais faire entrer en jeu, comment on devait jouer. Parce que je pense que même si à l'entraînement tu travailles toutes ces situations-là, hein, tu fais des 4 contre 5, des 6 contre 5, des 7 contre 8 pour trouver toujours le joueur qui est le extra man, comme disent les Anglais, celui qui est toujours libre puisque tu as un joueur de plus forcément sur le terrain. Et pourtant là, c'était, ils ont eu beaucoup beaucoup de mal, c'était assez lent dans leur transmission, il se passait pas grand-chose finalement. On a eu deux frappes de Gvardiol un petit peu lointaines, la deuxième un bel arrêt de Raya, mais sinon il se passait rien quoi. Haaland a quasiment pas touché le ballon, Gundogan non plus, Foden a rien apporté. Donc voilà, c'était assez fascinant. Et je pense que même Arteta de son côté a hésité longtemps par exemple à faire un changement, alors que tu vois bien que Martinelli il en pouvait plus, le pauvre, que Havertz il était cuit complètement. Mais est-ce que tu peux changer un joueur quand ton équipe finalement elle défend si bien à 10 contre 11? Je sais pas, j'ai trouvé ça incroyable.
Ouais, alors justement tu parlais de Guardiola, il y a une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, notamment en Espagne bien entendu, c'est la colère de Guardiola qui donne un grand coup de pied dans un siège. Est-ce que ça après est-ce qu'on en parle beaucoup en Angleterre?
Parce beaucoup, beaucoup, ouais. Alors on parle pas du fait qu'il ait réagi comme ça avec son coup de pied, c'est juste que ça vient donc sur le but qui est un petit peu lui-même polémique, le premier but d'Arsenal, celui de Calafiori, puisqu'il y a faute au milieu du terrain pour Arsenal. L'arbitre appelle les deux capitaines, donc Saka qui vient de son aile droite jusqu'au rond central on va dire, et Kyle Walker qui vient de son poste d'arrière droit jusqu'au rond central aussi. L'arbitre Michael Oliver leur parle à tous les deux, t'avais vraiment l'impression c'est on va se calmer un petit peu parce qu'il y avait pas mal de fautes, tu sentais encore une fois la tension. Sauf que une fois qu'il dit aux deux capitaines, c'est bon, reprenez vos positions. Kyle Walker, et à mon avis, à son déshonneur, je sais pas comment on dit, mais l'erreur que fait Kyle Walker, c'est qu'un, il tourne le dos au ballon. Donc, au lieu de se replacer à reculons en regardant le ballon et le jeu face au jeu, comme on te dit toujours, il tourne le dos au ballon et au jeu et il se replace en trottinant au lieu d'accélérer. Donc, il n'est pas vraiment en place. Peut-être qu'il attend que l'arbitre siffle le coup franc pour que Partey puisse jouer, sauf que l'arbitre a pas besoin de siffler, il dit jouer maintenant. Partey joue vite sur le côté de Kyle Walker qui est pas en place. Martinelli remet le ballon en arrière, Calafiori met un but de fou, voilà.
Et donc Guardiola s'est énervé. C'est contre son joueur.
C'est contre son joueur. Et ouais, tu sais ça, pourquoi Fredo? Parce qu'il nous a raconté après le match avoir dit à ses joueurs avant le match, il leur avait dit attention. Tout ce que Arsenal peut jouer rapidement, ils vont le faire. Ouais, les corners, les coups francs, les touches. Mmh. C'est l'équipe qui joue le plus vite maximale en première ligue. Mmh. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos au jeu et il se replace en trottinant. Ah, oui.
Et on a vu donc cette tension avec, notamment à la fin du match, Haaland qui s'est un peu chauffé avec Arteta, qui lui a dit un peu honte. Même sur l'égalisation, on le voit jeter un ballon sur la tête de je ne sais plus quel défenseur.
Gabriel, ça, c'est marrant.
Rapidement, pour conclure sur cette affiche, Rodri, c'est grave, très grave. Saison finie, on a un peu de nouvelles ce soir.
Ouais, c'est la saison, ouais. Ouais, c'est la saison. Ouais. C'est la saison. Ouais, c'est le genou. Donc, mais on
c'est
a
le ligament croisé,
tout de suite, sincèrement. Ouais, c'est le ligament croisé. De toute façon, il tombe tout seul sur une course complètement anodine. Voilà, c'est un autre encore qui malheureusement est peut-être victime du calendrier et tout ça.
City leader avec 13 points, Arsenal 4e avec 11 points. La course au titre ne fait que débuter en Angleterre. 20h15, petite pause et on est de retour avec les drôles de dames direction l'Italie avec la folle semaine de la Roma que va nous raconter Johan Crochet, d'ailleurs qui n'est toujours pas terminé cette folle semaine depuis le départ de De Rossi. La Roma qui a d'ailleurs gagné un match dans l'intervalle, mine de rien. Johan Crochet, Paulo Breitner, Fred Hermel et Julien Laurence, les drôles de dames avec vous jusqu'à 22h.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
C'est lundi, c'est drôle de dame. Merci d'être là, Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Yoann Crochet avec vous jusqu'à 22h en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous pouvez commenter. Abdelito écrit l'arbitrage est catastrophique en PL. Vitozzi, Gundogan va remplacer Rodri, donc ça va aller. N'hésitez pas, continuez à.
Pas le même joueur, hein, pas le même profil.
Pas le même profil.
Bon courage à lui, ouais.
Et puis surtout, vous nous appelez au 32-16 si vous voulez venir en direct débattre, poser une question au drôle de dame. 21h45, vous le savez, c'est votre quart d'heure. À suivre le Barça, la blessure de Ter Stegen, l'Allemagne avec Dortmund qui a explosé contre Stuttgart. Mais d'abord, Yoann Crochet, l'Italie. Cette semaine assez incroyable qui a commencé avec le limogeage de De Rossi, une sorte de tsunami qui a eu encore des répliques ce week-end.
Ouais, c'est une semaine vraiment absurde. Vraiment, le mot qui revient, c'est absurde parce que il y a déjà l'absurdité du choix de se séparer de De Rossi après 4 journées. Alors, toute la com du club est organisée autour de ce n'est qu'une décision sportive sur les résultats. Alors, les Friedkin ont fait encore un communiqué ce soir en expliquant plein de choses à travers le rachat d'Everton. Vous inquiétez pas, on va continuer à investir. La Roma, ça compte beaucoup, évidemment. Hein. Et en disant, c'est pas une décision populaire, on s'en rend compte, évidemment, on le savait, de sortir De Rossi du club. On sait que c'est difficile, mais là où c'est très bizarre dans la communication, c'est qu'il t'explique que c'est pour avoir l'ambition de gagner des trophées cette saison. Sauf qu'ils avaient commencé le cycle avec De Rossi en disant, on est sur un cycle de 3 ans, un projet de 3 ans, et là, d'un seul coup, ça se transforme en, il faut gagner en fin de saison. Donc, c'est pas hyper cohérent. L'absurdité, c'est aussi de se dire, on sort De Rossi parce qu'il y a un conflit interne aussi avec celle qui était jusqu'à quelques heures après l'administratrice déléguée, la CEO de la Roma, Lina Souloukou, la dirigeante grecque. Et on savait qu'entre les deux, ça passait plus très bien. Le choix était fait d'écarter De Rossi, sauf que, décision extrêmement impopulaire, vous le mettez dans un facteur tourbillonnant comme peut être la Roma, où il y a une passion débordante qui se transforme assez facilement dans le bien et dans le mal, dans l'excès ou dans l'excès positif ou dans l'excès négatif, en une déraison totale. Vous avez une dirigeante grecque qui a été pointée du doigt pour le départ de De Rossi, qui ensuite a été chose inadmissible, menacée. Les banderoles étaient contre elle, donc on lui a adjoint des services de sécurité pour elle, pour sa famille. Et c'est pas une situation qui est ni acceptable ni facile à vivre. Et elle a décidé, pour des raisons familiales, d'ensuite démissionner, même pas 48 heures après le départ de De Rossi. Donc on a un club qui a perdu son entraîneur, son administratrice déléguée en 48 heures. Un club qui a quasiment balayé d'un revers de la main son projet de 3 ans, parce que c'était fondé sur Lina Souloukou et sur Daniele De Rossi, avec un investissement de 100 millions d'euros, un peu plus de 100 millions d'euros lors du mercato estival. Et entre ça, on a eu une contestation des supporters très forte, je le disais. Alors la partie déraisonnée, c'est tout ce qui est menace. Et ensuite, il y a la partie plus amour envers Daniele De Rossi, avec des banderoles en son honneur, avec des gens qui allaient jusqu'en bas de son appartement, pas loin du Castel Sant'Angelo à Rome, pour lui témoigner leur soutien, avec chants, fumigènes, banderoles, etc. Il y a même la femme de De Rossi qui a mis un message sur Instagram en disant merci avec une photo depuis la fenêtre de l'appartement. De Rossi s'était montré à la fenêtre. Donc,
ouais, c'est le pape, quoi.
Le François le plus important à Rome, c'est un ancien joueur, c'est pas le pape. C'est Francesco Totti.
Oui, François
c'est
Totti.
Pas papa magnifique.
Et je vais te dire, le chrétien que je sais, que je suis, le comprend parfaitement.
Exactement. Mais c'est vrai que c'est un. Derrière Totti, la personne la plus aimée et à Rome, c'est De Rossi, évidemment. C'est une figure importante, c'est quelqu'un qui représentait les supporters et ça a été très très mal vécu. Donc vous avez un entraîneur qui arrive derrière, c'est Ivan Juric, qui arrive dans une situation quand même, dans un chaudron, quoi. Vraiment, pour lui, c'est très difficile d'arriver dans cette ambiance-là, où les joueurs ils sont insultés quand ils arrivent au centre d'entraînement après l'annonce du départ de De Rossi.
D'ailleurs, il y a une petite com maline, je crois que c'est aujourd'hui ou hier après le match, en disant, Juric, que les joueurs lui avaient dit qu'ils regrettaient le départ de De Rossi.
Non, mais ça, moi, je peux le croire, parce qu'il y a des...
Oui, mais il fait bien de le dire, quand même.
Ouais, mais c'est vrai que c'est très intelligent. Et il y a des joueurs de l'effectif actuel qui avaient été compagnons, coéquipiers de Daniele De Rossi, coéquipier, lorsqu'il était joueur déjà à l'époque à la Roma. Donc, ils ont été affectés. Ivan Juric, après le match, a dit Bah oui, oui. Les joueurs ont eu l'honnêteté de me dire qu'ils étaient marqués par le départ de De Rossi. Donc les premières heures n'ont pas forcément été géniales, mais après, c'était des professionnels. Ils ont très bien bossé, très à l'écoute. Et ce qui est bien, c'est que Ivan Juric a été intelligent aussi là-dessus. Il a beaucoup parlé de l'héritage de De Rossi, qui s'entraînait déjà très bien, qui avait des choses en place qui étaient déjà intéressantes sous De Rossi, qu'il n'allait pas tout bouleverser et tout changer. Et arrivé donc ce match où dans une semaine complètement folle, stade à moitié vide, enfin à moitié vide, la cour Vassoud, donc le grand virage de supporters avait décidé de rester en dehors du stade pour les 30 premières minutes. Ils sont arrivés au bout d'une trentaine de minutes. Il y a eu des contestations, des banderoles contre les propriétaires, essentiellement contre les propriétaires, des banderoles d'amour pour De Rossi aussi. Et dans le match a été plutôt bien maîtrisé, je trouve, dans cette ambiance de fin du monde vraiment. À Rome, je trouve que Juric a fait du bon boulot. Je trouve que les joueurs ont aussi fait du bon boulot.
Ils ont mis 3-0 à l'Udinese, qui était leader journée. L'AS Rome n'avait pas gagné encore. Donc oui, c'est vrai que finalement.
Non, et puis au-delà même du résultat, c'est le contenu. Contenu est quand même plutôt bon, je trouve. Il y a eu des choses intéressantes. L'Udinese n'a pas trop existé. Alors c'est en partie parce que la Roma était bonne, mais je pense que l'Udinese a aussi un peu manqué d'ambition dans ce match-là. Parce que quand vous êtes adversaire d'un club qui est en telle perdition, ça peut être vraiment idéal pour toi d'arriver et de te dire. Les gars, ils sont à l'ouest total. C'est la crise chez eux. Ils n'ont pas leurs supporters pendant la frange la plus chaleureuse pendant une bonne partie du match. Les gars, allons-y, on leur rentre dedans. Moi, j'étais très honnête du début de match. Je pensais que l'Udinese, ils allaient arriver et leur mettre des brins, leur rentrer dedans pour leur montrer que ça allait être compliqué, leur mettre la tête sous l'eau. Et ça n'a pas été du tout le cas.
Et dans cette réorganisation en cours, qu'en est-il de Gisolfi arrivé cet été
Bon, c'est pas simple parce que. Alors, on parle d'une situation qui ne se répétera plus puisque Lina Soulukou est partie, mais elle avait une grande volonté de contrôle sur tout, y compris même sur le mercato, hein, sur les deals en place. Elle a fait l'essentiel des négociations. D'ailleurs, vous pouvez demander au Stade Rennais. Je suis pas sûr que ce soit toujours très bien passé au niveau des négociations quand Enzo Lefebvre est arrivé à la Roma avec Lina Soulukou. Mais
les Lensois aussi avec Danso aussi peut-être.
Visiblement.
S'il y avait.
Je sais pas si.
Bah, il va être opéré.
Oui, je sais pas si Polo confirme ça, mais en Autriche, on parlait hier quand même d'une petite opération au cœur de Danso, donc c'est pas.
Non, mais c'est confirmé. Hein.
Visiblement, c'est pas non plus juste.
C'est réel.
Une arnaque comme Lens a essayé de le présenter, quoi.
Et puis, sans sauver la Roma, Danso, il est bien connu en Allemagne quand même. Il a voulu forcer à l'époque son transfert à Augsbourg. On a bien vu ce qu'il a fait aussi l'année dernière à Lens lorsqu'il décidait de ne pas jouer un match, etc.
Un match décisif, le dernier match de la saison.
Ouais, Danso, c'est pas non plus le lapin de trois semaines, quoi. C'est un mec, il a quand même fait des choses qui sont, on va dire, limite si on cherche un affect chez un joueur. Quoi.
Ouais. Et donc, pour revenir à Gisolfi, ce moment compliqué, moi, on m'a dit, source du club, hein, on m'a quand même dit un truc très fort et très puissant, on m'a dit, il décide de rien, donc. Alors moi, je pense pas que ça
peut-être changer maintenant, justement.
Je pense pas que ce soit à ce point-là. Déjà, je pense que c'est un peu exagéré. Ouais. Néanmoins, parce que le fait, c'est lui qui l'a voulu et c'est lui quand même qui a été à l'initiative. En tout cas, il est très critiqué par l'environnement autour du club parce qu'il ne parle pas, il parle à personne, mais pour des trucs insignifiants ou pour ça peut être avec des agents, avec des journalistes sur place, même des trucs vraiment bénins où ça nécessiterait une réponse. Et le fait de ne pas s'intégrer comme ça, ça peut aussi totalement jouer contre lui.
C'est en train de se passer un peu. Avec ce nom-là.
Il ne parle pas italien. Il a des notions. Ouais. Non, mais c'est pas ça.
Il faut se méfier des noms qui sonnent italiens, des gens qui parleraient.
Giangrande.
Giangrande, il est comment?
À part Aventi, la camionnetta et deux, trois insultes. Non,
tu vois, on est vraiment déçus. Hein.
Mais c'est même pas une question de langue, parce que tu as des directeurs sportifs. Thiago Pinto, quand il arrive à la Roma, il est portugais, il ne parle pas spécialement italien, mais il est ouvert. Il est présenté en tant que directeur sportif. Ouais. Il fait une conférence de presse à la fin du mercato pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont pris tel joueur, comment ça s'est passé. Lui, il n'a pas été présenté. C'est jamais arrivé à la Roma qu'un directeur sportif soit pas présenté.
Parce qu'il n'a pas voulu, peut-être.
Mais c'est en soi, c'est pas génial, quoi. Même au niveau de la com du club, on commence à lui dire bon, faudrait peut-être lui dire non, envoyer ça avec Lina Soulukou.
Et surtout que maintenant, il est tout seul, là.
Bah là, pour l'instant, il y a quand même un dirigeant d'envergure à aller chercher. Mais la Gazzetta, ce matin, disait on n'est pas sûr qu'il reste. je m'avancerai pas autant, mais pour l'instant, c'est pas génial. Ouais.
À voir si le tsunami est définitivement passé à Rome ou pas. On continue de suivre ça avec toi. Et merci, Yoann, de nous raconter l'Italie hein, tous les lundis, d'autant plus ce championnat qu'on ne peut plus voir en France. Ça fait plaisir. Et tiens, d'ailleurs, l'Udinese Thauvin, qui a priori n'a pas brillé dans ce match-là, préconvoqué par Didier Deschamps, d'après l'équipe, pour le prochain rassemblement de l'équipe de France.
Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je sais que tu es très podcast, même si tu n'as plus l'After Lyon, mon cher Thibaut.
Il remue le couteau dans la plaie.
mais podcast After Italie sur Florian Thauvin, justement avec Rudy Garcia. On avait évoqué un potentiel retour en équipe de France. Alors pour l'instant, c'est juste une pré-convocation, on ne va pas s'emballer. Mais on a discuté de ça avec Rudy Garcia.
Et bon, d'ailleurs, puisqu'on balance les podcasts, mais justement, podcast Espagne. Ouais. Fernand Mendy aujourd'hui.
Il est tout frais d'aujourd'hui.
Ah, tout frais, il sort du four.
Ah, vous le savez, vous qui nous écoutez, c'est la nouveauté si vous aimez ce rendez-vous
after
des drôles de dames.
After Angleterre.
Exactement. Aussi. Toutes les semaines, les podcasts de vos drôles de dames, une fois par semaine. Johan, Polo, Julien et Fredo.
C'est vrai que pour leur podcast, mais c'est l'occasion de parler.
Et de parler plus en profondeur
de gens qu'on évoque tôt, parce que Mendy, c'est pas la star du Real. Et aujourd'hui, je vous ai dit, vous allez apprendre des choses sur Fernand Mendy.
Exactement. Dans un
c'est
instant,
bien vendu, là, ça y est.
L'Allemagne, justement, attendez minuit pour vous les faire, justement. C'est après l'after.
Ah, bah oui.
Dortmund qui a explosé hier à Stuttgart et la minute de Fred Hermel. C'est le programme de Génération After dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Les drôles de dames sont là jusqu'à 22h comme tous les lundis soirs. Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel, Yoann Crochet, 32-16. Si vous voulez les interpeller, leur poser une question, 21h45, elles seront ces drôles de dames face à vous pendant un quart d'heure. Comme tous les lundis, on est toujours en direct sur YouTube, bien évidemment. J'ai vu que vous nous demandiez pour les podcasts, là, la nouveauté de la saison, les podcasts des drôles de dames. C'est dispo partout. Hein. Là, par exemple, je suis sur l'appli RMC, RMC Sport, podcast After Angleterre, After Espagne, Italie.
Sur rmc.fr,
Spotify,
Spotify, Apple
c'est parti. Ouais. D'ailleurs, à côté de ce podcast Angleterre, j'ai les livres. C'est quoi ce nouveau podcast aussi là ? Qui c'est qui présente ça ? Un show avec des lunettes ?
Ah, je sais pas, je connais pas.
Fred Hermel.
Fred Hermel, Délivré RMC, ça s'appelle.
Délivré RMC,
c'est ça. Ouais, c'est un podcast littéraire. Et c'est parti, il y a le premier épisode des gens.
C'est nouveau,
et on enregistre le prochain épisode vendredi. Mais allez-y, c'est très sympa.
À suivre.
Enfin, à ce qu'on dit. Hein.
Justement, la minute de Fred Hermel. On parlera également de la blessure de Ter Stegen. Est-ce que ça peut plomber le Barça cette saison ? Mais d'abord, Polo, l'Allemagne. Et j'allais dire cette surprise. Est-ce que toi, t'es surpris de cette déroute de Dortmund face à Stuttgart ? 5-1.
Alors, je peux me tromper évidemment sur mes analyses, mais je rappelle que sur le Borussia Dortmund, qui était invaincu depuis le début de la saison, je n'ai pas arrêté de dire qu'il y a un décalage depuis que Nouri Sahin, a été nommé entre les résultats et les points qu'il marque et la prestation sur le terrain. Et Nouri Sahin, il se fait, mon cher Thibaut, que je suis en ce moment au Borussia Dortmund et j'étais cet après-midi avec Nouri Sahin. Donc, si, j'étais avec en interview. Je peux t'assurer que je pense qu'il avait autre chose à faire dans sa tête, que le 5-1 que s'est pris Dortmund hier à Stuttgart a fait très très mal. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est la façon dont Nouri Sahin est sorti un peu de ses gonds en conférence de presse. Je résume la phrase. On peut trouver à chaque fois des millions d'excuses, mais il n'y en a pas une seule qui est valable pour la prestation qu'on a faite hier à Stuttgart. C'est assez impressionnant parce qu'il a remis non pas la même composition mais le même schéma de jeu en mettant Julian Brandt en meneur de jeu et Sabitzer à droite, en milieu droit. Sabitzer n'arrête pas de se plaindre depuis le début de la saison que ça ne fonctionne pas. Mais au-delà de la position des personnes, c'est surtout l'état d'esprit de l'équipe qui a manqué complètement. Ça râle beaucoup du côté du Borussia et je peux t'assurer pour avoir passé ma journée au Borussia aujourd'hui qu'ils font tous la gueule et ils sont en train de prendre du Guronzan là. On a même eu du retard au niveau des
Temps qu'on devait
faire.
Ouais, parce que on te perd un petit peu. Je sais pas si c'est politique ou quoi.
Non,
si
c'est vraiment,
j'ai l'impression que ça dérange ce que tu es en train de dire. On va te reconnecter, Polo. Mais c'est vrai que il y a 5-1. J'ai vu passer des messages aussi sur le chat. Là, on me dit Enzo Mio brillant avec Stuttgart. C'est vrai que c'est un joueur qu'on connaît peu en France, qui a été très bon, hier. Je sais pas si vous avez suivi.
Déjà la saison passée, il a été très 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 bon à Stuttgart. Et là, il gagne en volume, il gagne en décision, il gagne en maturité aussi sans doute, un peu en expérience. Et je serais pas étonné de le voir, hein, mon cher Julien, dans pas longtemps, à un niveau au-dessus de Schneider.
On a retrouvé Polo. Polo, on t'a perdu sur la conclusion du Borussia.
Je vais venir, parce qu'après, il faudra parler de Stuttgart, évidemment, et d'Enzo Mio, qui a été exceptionnel. Le Nuri Sahin est arrivé en interview à peu près avec 2h30 de retard, et il se dit que l'entraînement a été allongé cet après-midi, avec explication de texte au niveau de l'équipe, etc. Maintenant, encore une fois, le Dortmund n'a pas été bon, mais il faut parler de la prestation de Stuttgart. Beaucoup en Ligue des Champions ont vu ce qu'ils étaient capables de faire malgré la défaite contre le Real. Mais il y a un joueur, j'en parlais déjà l'année dernière, on me fatiguait beaucoup avec les statistiques de Guirassy, qui d'ailleurs était en face ce week-end. Mais moi, c'est le Français Enzo Mio, en tant que milieu offensif, quand il est décalqué côté droit. Regardez la passe qu'il fait à Touré pour le but du 4-1. Ça rappelle celui de Benzema à l'époque, lorsqu'il est près de la ligne. Je peux vous assurer que c'est assez. Moi, je suis vraiment très content pour Stuttgart parce que on se posait la question de savoir ce qu'il y avait après les départs de cet été, si ça allait faire une belle équipe. Moi, je suis désolé. Enzo Mio, il est pas loin de l'équipe de France. Faut vraiment lui donner sa chance. Et il y a un autre Français, mais on en parlera plus tard. Mais en tout cas, cette défaite 5-1 à Dortmund fait très très mal. Mais je pense que le VfB Stuttgart a peut-être trouvé son équilibre pour refaire une superbe nouvelle saison.
C'est vrai que ce Stuttgart, Fredo, contre le Real. Je me souviens de la première période, notamment, s'il y avait un poil moins de maladresse, ils peuvent être à 2-0.
Mais il faut un Courtois exceptionnel, exceptionnel pour qu'il n'y ait pas 3-0 à la mi-temps. Sincèrement, enfin, je veux dire, moi j'ai adoré Stuttgart et je pense que ce Stuttgart a fait du, on y viendra tout à l'heure, a fait du bien au Real. Je crois qu'ils se sont rendus compte que si ça jouait pas un peu plus collectif du côté du Real, ils ne gagneraient rien cette saison.
Et on en parlera.
Et donc, je pense qu'ils ont travaillé depuis. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Stuttgart. J'ai trouvé que c'était une équipe enthousiaste. Que c'était une équipe qui jouait très collectivement, qui savait ce qu'elle. En fait, les joueurs avaient. Je sais pas si je me trompe, Polo, mais que les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire collectivement. Tu vois, que chacun connaissait bien son rôle.
Mais en plus, il y a quasiment que les internationaux, faut pas l'oublier. Oui. Il y a la défense centrale qui est un peu faible à mon avis, mais n'oublions pas que je vous ai aussi parlé souvent de Sébastien Hoeneß, le neveu d'Hoeneß. Moi, c'est quelqu'un j'ai apprécié énormément, qui est d'un calme olympien, sauf que lorsqu'il s'énerve dans le vestiaire, et ça commence à fonctionner. Mais le fait de répéter pour la deuxième saison dans un club qui est connu pour, on va dire, avoir des résultats en montagne russe, ils peuvent être champions comme descendre en seconde division. Je trouve ça exceptionnel de répéter quelques jours après la prestation contre le Real qui a fait mal à la tête comme un Stuttgart, faut le dire, de mettre une volée de cette façon à Dortmund qui n'a pas existé. Avec des joueurs, avec deux attaquants, un attaquant contre le Real, avec Mio qui est extraordinaire, même Furich qui était international allemand est aujourd'hui sur le banc. C'est Leveling, un ancien d'Union Berlin, je peux vous assurer que je ne l'ai jamais vu à ce niveau-là, en tout cas lorsqu'il était à Berlin. Non, mais ça peut être la belle surprise de la saison, y compris en Ligue des Champions. Les barrages, il ne va pas falloir jouer Stuttgart.
C'est clair. Stuttgart qui est ce soir 7e de Bundesliga, 7 points après 4 journées, à 5 points du Bayern et à 2 points du Bayer Leverkusen dont on parlera tout à l'heure. Ce sera l'affiche de ce week-end et énormément de
choses. Je me pose une question d'ailleurs là, avec le nouveau format, est-ce que le Real qui a joué contre Stuttgart pourrait retrouver Stuttgart en barrage? Parce qu'avant on ne pouvait pas, mais est-ce que là c'est très possible?
Bon, je pense que oui. Non
je me suis posé la même question. Si tu finis, je me suis posé la même question, c'est-à-dire si le 9e peut jouer le 24e et que si les résultats sont logiques, et que tu les as rencontrés, ils peuvent s'en trouver. Maintenant, je suppose que l'UEFA doit dire non, c'est pas possible, mais en théorie, c'est possible. Ouais.
Rendez-vous tout à l'heure donc pour ce gros choc entre le Bayern et le Bayer. Polo va tout nous dire, surtout après les prestations du week-end. Mais à 20h40 sur RMC, place à la première minute de la soirée. C'est la minute de Fred Hermel. Si te dijera, amor mío, que te va la madrugada. No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza. Le plus grand chanteur de flamenco actuel, José Mercé.
Tu pars pas sur un podcast musique, rassure-moi.
Non. Attends, là, c'est du très très haut niveau.
Ah, pardon.
C'est la version flamenca d'une des plus grandes chansons espagnoles qu'on avait déjà mis, je crois qu'il y a deux saisons, de Luis Eduardo Aute, qui s'appelle Al Alba. Et c'est l'histoire d'un condamné à mort sous le franquisme qui passe sa dernière nuit et qui pense à l'aube où il va être exécuté. Et là, c'est la version flamenca de cette chanson magnifique. Flamenca, pourquoi? Parce qu'on va parler d'un sévillan. Jesús Navas. Alors, il a failli partir par la petite porte du Séville FC la saison dernière. Finalement, il s'est un peu rabiboché avec les dirigeants qui lui ont proposé de continuer, chose idiote, jusqu'au 31 décembre. Voilà, c'est même pas saison, quoi, ouais. C'est 31 décembre. Et à partir du 1er janvier, d'avoir un poste de représentation, un poste dans l'administration du club. Et il se trouve que Navas n'a pas joué ce week-end, et le week-end d'avant, il avait marqué. Et les supporters se disent non, mais de toute façon, Navas, on a encore besoin de lui. De toute façon, le Séville est vraiment menacé cette saison. Je pense que ça fait partie des grands qui, cette fois-ci, peuvent descendre comme Valence, peuvent descendre en deuxième division. Et que les supporters se disent il faut que Navas reste, parce qu'on a besoin de lui sur le terrain, ne serait-ce que comme capitaine, pour supporter les difficultés de la saison. Mais non, lui a dit que non, il n'en peut plus. C'est sûr, maintenant, le 31 décembre, il arrête sa carrière. C'est une grande page du foot espagnol qui se tourne.
On sait ce qu'il va faire après, il va rester
dans le club. Ouais. C'est ça, il va être dans le club, avec un rôle, on ne sait pas encore lequel, mais un rôle dans l'administration du club, sûrement de représentation. Lui qui était très timide, ça serait assez rigolo de le voir parler devant les micros. Mais voilà, Jesús Navas, c'est sûr, les supporters n'y feront rien. Arrêtera bien définitivement sa carrière, chose très étonnante, un 31 décembre.
Oui, faire ça 6 jours après Noël, c'est quand même... comme une dingue. La prochaine minute, ce sera celle de Julien Laurence et ce sera juste après.
C'est même 7 jours.
Le 31. Oui,
24 et.
C'est Fredo, Noël, c'est le 25.
Ah oui, t'as raison.
Oh là là. Oh là là, c'est
clair. Non, mais tu sais, parce que j'ai pensé
ça,
à quoi
c'est jingle,
pensé
hein. Ça, tu vas avoir un nouveau jingle.
Ouais, hein. Bon, frère, je suis trompé sur Noël.
Tu vois, t'es encore sur tes trucs parce que toi, voilà, tu commences Noël le 24 à midi et voilà. Mais le vrai jour, c'est le 25.
Bah, le 24.
En fait, Fredo, il arrive le 25, il est déjà cuit, quoi, déjà.
Bah, non, mais nous, franchement, vous faites la fête quand? Le 24 au soir ou le 25 au midi? Les cadeaux chez vous, c'est le 25 au matin ou c'est le 24 au soir?
Ça rame un peu, là, quand même.
24 au soir, non, ou pas 20... chez toi, Nathalie, c'est quoi 24 au soir?
Là, je te laisse ramer un peu. Là.
ramer. On n'avance à rien dans ce canoë. Oui,
voilà, on pouvait se rejoindre quand même sur la mienne. Allez, on tous les deux ce.
Allez, on va faire un duo, toi. Moi, je pense qu'on a un avenir.
Pas sûr. 20h43, petite pause à suivre la minute de Julien Laurence. Et le Barça, Ter Stegen blessé gravement. Cette blessure peut-elle plomber le Barça? On en parle tout de suite avec Polo. C'est Génération After, spécial drôle de dame jusqu'à 22h.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giongrande.
Oui, on est lundi, oui, c'est le début de semaine, mais tous les lundis soirs, les drôles de dames sont là pour vous aider à faire passer la pilule. Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, 20h-22h, votre rendez-vous.
Petite chanson encore là, non?
Du foot européen, de quoi?
Une petite chanson? Parce que c'était bien notre petite chanson juste avant la pilule.
Ah, tu veux, on va vraiment partir sur un podcast, parce que là, je pense qu'au bout d'un moment, on va peut-être quand même emmerder les gens à leur chanter. Mais moi, me chauffe pas surtout sur du Souchon ou quoi, parce que je vais prendre 3 minutes. J'adore.
J'adore. Comme tous les gens qui ont du goût.
À suivre dans vos drôles de dames du foot avec la Bundesliga et ce choc ce week-end entre le Bayern en mode machine de guerre et le Bayern en mode Bayern Leverkusen finalement. Polo nous en parle dans un instant. La minute de Julien Laurence à suivre. 32-16. Si vous avez des questions à poser aux drôles de dames ou YouTube, la chaîne de l'After, dans le respect, toujours bien évidemment. Mais d'abord, justement, l'Espagne, Fredo, cette grave blessure de Ter Stegen ce week-end. Évidemment, on parle très peu de la pourtant large et nouvelle victoire du Barça. Mais est-ce que cette grave blessure au genou de Ter Stegen peut plomber le Barça? Est-ce que ça va recruter? Qu'on fait
automatiquement, c'est gravissime pour le Barça. Enfin, c'est la même gravité que l'an dernier, quand on est à peu près au même moment de la saison, quand Thibaut Courtois s'est blessé. La Ter Stegen, exactement, c'est la rupture du tendon rotulien. C'est la saison est terminée, c'est 8 ou 9 mois, enfin, c'est énorme. Et comme toujours dans ce genre de blessure, ça se fait sur rien, tu vois. C'est pas un coup. Quand on revoyait les images, on eût espéré voir un coup, en disant voilà, c'est un gros coup, excellent. Non, il est sur un corner, il recule, il retombe mal, et là ça pète, et lui il le sait tout de suite. On voit à sa tête que c'est grave, parce qu'il le sait tout de suite que c'est grave. Le remplaçant, c'est Iñaki Peña. Alors, vous allez me dire, ah ouais, l'an dernier, le Real a recruté Kepa et finalement c'était le gardien remplaçant Lounine qui s'est révélé. Est-ce que Iñaki Peña peut se révéler? Je suis moins optimiste. Parce qu'Iñaki Peña, l'an dernier, il avait remplacé pendant 17 matchs, je crois, Ter Stegen, qui avait des problèmes de dos. Notamment, c'était en fin d'année civile, début d'année nouvelle civile. Et donc, Iñaki Peña avait fait quelques bons matchs, mais on avait senti quand même la différence par rapport à Ter Stegen. Il y avait vraiment un gros fossé entre de niveau entre les deux et dans la capacité à sauver des situations vraiment très très difficiles. Donc le Barça recrute. Et là, les amis, j'ai une question à vous poser tous. On parle de noms. Alors, il faut savoir que le Barça peut prendre dès aujourd'hui un joueur. Le fair play espagnol autorise un joker médical. Un joker médical dont le salaire ne dépasse pas 80% du salaire de Ter Stegen. Voilà, okay. C'est ça aussi, parce que vous savez, la Liga de Tebas, c'est ça, il faut contrôler les finances.
Bon, sur le salaire, ça devrait aller quand même.
Oui, ça devrait aller. Et puis là, ils peuvent prendre tout de suite. Ou alors, il faut attendre le marché, le mercato de janvier, pour prendre un joueur qui est déjà en contrat dans une autre équipe. Il y a des noms qui circulent, mais il y en a surtout un. Et moi, je pense que s'ils font ça, ils font un coup énorme. C'est Keylor Navas, l'ancien gardien du Real, qui a gagné les trois Ligues des Champions sous Zizou, 2016, 2017, 2018, c'est Keylor Navas dans les buts en étant décisif. À Paris, je pense qu'on lui a manqué un peu de respect. Je pense que Keylor Navas avait...
D'accord avec toi.
Il avait beaucoup de choses à donner, encore dans ce club. Et que, alors, il y a quelques jours, il était en négociation avec un club au Brésil, on parlait de Grêmio, etc. Mais il est libre. Si le Barça... Après, je ne sais pas si Keylor Navas a envie, lui qui a porté le maillot du Real, d'aller jouer au Barça. Vu la manière dont il a écarté du Real, je pense sincèrement qu'on le comprendrait. En tout cas, moi, je le comprendrais. Alors, je ne sais pas, vous, les copains, si vous avez déjà position à faire.
Ouais, peut-être sur Navas. Déjà, Julien, toi, t'es le dernier à l'avoir vu jouer en PL. C'est comment son niveau à Navas sur les dernières fois que tu l'as vu?
Ah, ça a été un petit peu compliqué par moment, mais bah, il a 37 ans maintenant. Après, c'est à 37 ans pour faire une pige, ça peut-être encore le faire pour un gardien de but, mais je ne sais pas dans quelles conditions il est. On se rappelle de Derrea, par exemple, qui avait longtemps galéré, qui avait pas 37 ans, mais qui avait longtemps galéré avant de trouver un autre club. Donc, nous, à Nottingham Forest, ça n'a pas été génial, la fin de saison 2022-2023. Mais je suis d'accord avec Fredo, je pense que de toute façon, moi j'allais te proposer Loris Karius, tu vois. Alors, excuse-moi,
oui, mais il est souvenir de voilà. Real Liverpool.
Ouais, voilà, au niveau Kagad, il était pas mal, mais sinon, j'ai rien d'autre à te proposer.
Garde Peña peut-être. Est-ce que Johan et Polo, vous avez une bonne idée pour
Non, moi j'ai fait la liste des gardiens italiens gratuits, à part Emiliano Viviano, 38 ans, qui est plus haut niveau depuis très longtemps, j'ai rien pour toi, mon Fredo.
Ben non, mais en plus, on aurait pu se poser la question du vieillissement de Ter Stegen, qui aura
33 ans cette année. Ouais, parce que c'est compliqué, hein, Polo, hein.
Ouais, mais sauf qu'il a un contrat jusqu'à Mathusalem, quoi. Mm-hmm. Donc en fait, tu t'es forcé de prendre un gardien qui, pour une pige,
oui.
Tu peux pas lancer un petit jeune comme ça.
Comme pour Courtois, qui a un long contrat et qui.
Ben c'est ça.
C'est la même situation.
Et tu peux pas te dire, ah ben on va aller chercher un petit espoir du foot, et puis comme il est bon, ben il va nous remplacer Ter Stegen l'année prochaine, par exemple, parce que sinon, tu te retrouves encore avec le salaire de Ter Stegen l'année prochaine. Donc tout ça, c'est un peu plus compliqué, ça ne peut être qu'un gardien d'une certaine expérience et qui est là pour faire une pige, ouais.
Idée que me souffle Jimmy Brown qui produit cette émission, tenace. Ancien du Barça, qui est maintenant plus que troisième gardien à Paris, puisque Safonov est arrivé. Bon, il n'est pas libre, hein, mais si.
Fin de janvier.
Ça, fin de janvier.
Ouais, ouais. Bah oui, c'est une question
que tu récupères. Tu peux
je voyais sur, nos amis sur le chat.
Sergio Rico.
Parler de Sergio Rico et parler de Yacine Bounou, qui est en Arabie Saoudite.
Mais il est sous contrat.
Oui, mais pour janvier.
Ouais. Tu tiens, mais bon.
Franchement, là aussi.
En gros, c'est Navas.
Yacine Bounou, c'est un super gardien.
Ouais. Mais après, comment la cohabitation avec Ter Stegen.
Mais il revient pas avant la saison prochaine.
Ouais. Bah ouais, mais enfin.
Oui. Mais...
ça fait double salaire, quoi.
C'est surtout
c'est compliqué.
Ter Stegen dernièrement, c'est un peu une. Enfin, il arrête plus beaucoup de ballons. Hein,
ce match-là, juste avant, il fait un contre un exceptionnel face à Nicolas Pepe, qui a été très bon d'ailleurs, Nicolas Pepe avec Villarreal. Et qui provoque le corner sur lequel il se blesse. Donc voilà, moi je trouve que c'est une situation très difficile pour le Barça. Un petit mot.
Barça qui a quand même mis 5 ans au passage.
Voilà, c'est un super match.
À Villarreal.
C'est un super match, c'est vachement beau.
Ouais.
Simplement, Villarreal qui est l'une des plus meilleures équipes de la saison, qui se prend 5-1 à domicile, moi ça m'inquiète. ça m'inquiète parce que c'est une belle équipe mais qui n'est pas assez compétitive. Et voir Marcelino, l'ancien entraîneur de l'OM, enfin co-entraîneur de l'OM, dire qu'il était content parce que c'était un super match pour les gars, quand on prend 5 chez toi et que Lewandowski aurait pu mettre le 6e sur pénalty qu'il a manqué. Voilà. Et puis je conseille à tout le monde de regarder, de voir, et je termine là-dessus, je parle beaucoup, je sais.
Non.
La passe décisive extérieure de Lamine Yamal.
À la Charisma.
Intitulé
la Vinicius aussi ce week-end.
Défini par Alfredo Lorenzo, mythique homme des médias en Espagne, très proche du Real, et dit c'est la passe décisive du siècle. La Assistencia del Siglo. C'est extraordinaire.
Toujours dans la mesure, mais
on est en Espagne.
La passe était belle.
Charisma, il aurait fallu lui faire un contrat d'un jour dans sa vie. Un seul
jour. Je te jure. Spécial passe.
Et c'est ça, c'est extraordinaire.
On me dit Anthony Lopez aussi dans le chat, Alex. Mais il n'est pas libre, justement, pour l'instant. Il lui reste un an de contrat.
Il y a Benoît Costil, si tu veux, dans ce cas-là. Mais là, on va trop loin, là, pour le Barça.
Allez, Julien, tiens, t'as la parole, justement, pour ta minute 20h55 sur RMC. C'est la minute de Julien Laurence. Let's go. Bon, ça.
Ben, c'est bien ça.
Vous avez reconnu tous, hein, mais on va laisser un petit peu quand même. La musique, bien sûr. Eh oui, another one by the dust, bien sûr. Queen, vous avez tous reconnu parce que quelqu'un d'autre a mordu aussi. Hein. Il n'y a pas que dans la chanson de Queen où on bite, où on mord. Puisque si vous avez donc, bite, c'est mordre, bien sûr, en anglais. Another one by the dust, c'est quelqu'un mord la poussière. Donc c'est pas vraiment c'est pas mordre physiquement, oui. Mais bon, c'est la meilleure chanson que j'avais trouvée avec le mot mordre dedans, parce qu'on a vu un truc assez grave, bien sûr. C'est pour ça qu'on faisait tout à l'heure référence un petit peu à Luis Suarez, le mordeur, on dit mordeur, non, le mordant, le, je sais pas, qui a déjà mordu lui, on va dire, parce que dans le match entre Preston et Blackburn, alors personne ne regarde Preston Blackburn, je vous le confirme. Mais on a vu l'attaquant de Preston, donc en championship, en deuxième division anglaise, Mutinos Magic, mordre l'arrière-gauche de Blackburn. Mais clairement, hein, tu le vois très bien sur les images vidéo, par derrière, dans le cou, donc en haut du dos, alors qu'il y avait eu une petite échauffourée. Owen Beck, l'arrière-gauche de Blackburn, prêté par Liverpool, prenait un carton rouge parce qu'il avait effectivement mis une petite balayette à un joueur de Preston. Donc ça s'est un petit peu chauffé. Et tu vois clairement, mais vraiment clairement, Ose Magic le mord dans le cou, et le pauvre Beck va dire à l'arbitre, mais regardez, je vais vous montrer, j'ai la morsure, il m'a mordu, je vais vous montrer. L'arbitre n'écoute pas, bien sûr, parce que les arbitres n'écoutent personne de toute façon, mais simplement un carton jaune à Ose Magic pour l'embrouille, quoi, mais pas du tout pour la morsure. Depuis la ligue anglaise, enfin la ligue qui fait les ligues inférieures en Angleterre, a ouvert une enquête. Il va prendre très très cher Ose Magic, et donc c'est pour ça nous rappelle un petit peu il nous a fait une petite Suarez, quoi.
Tiens, rapidement, Polo, il y a Vincent qui demande dans le chat, est-ce que Polo apprécie Queen? La France veut savoir.
Les vieux morceaux, oui.
Ok, ça fait un moment qu'ils n'ont plus fait grand chose. Le chanteur est occupé.
Non mais Barcelone 1992, beaucoup moins, quoi, tu vois.
Ah d'accord. 20h58, merci Polo, les drôles de dames qui sont là encore une heure. Julien Laurence, Polo, Fred Hermel et Johan Crochet dans un instant, justement. L'Allemagne, ce choc à venir entre le Bayern et le Bayer Leverkusen après un week-end exceptionnel. Et puis on parlera du derby milanais remporté par l'AC Milan. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
RMC. Le mec, il a 3 sélections, il vient du Diablo Vert, hop, 3 sélections, il met 2 buts. Pourquoi tu lui donnes pas sa chance? Ça te donne une possibilité supplémentaire.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable, et qui est palpable visuellement, enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais...
And, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in Ligue 1 if they win on Friday night at home against Lille.
Il y a Florentino qui était sur rien fait. Mais qu'est-ce que ça? Fred Hermel, tu parles de Barça? Mais qu'est-ce que ça?
Qui te coupe la ligne?
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
21h04, quel plaisir d'être avec vous, avec les trolls de dames, jusqu'à 22h comme tous les lundis soirs. Oui, Johan, qu'est-ce qu'il y a, Johan Crochet? Oui, j'ai bafouillé, et alors?
Il y a un petit dodan en début d'intervention.
Oui, c'est le début de semaine. Johan est là, Fred Hermel également, Paulo Breitner, Julien Laurence. On est en direct jusqu'à 22h, 21h45, c'est votre moment, hein, 32-16. Vous nous appelez, vous posez vos questions aux drôles de dames. Elles sont entre vos mains, elles vous appartiennent. Elles sont votre chose, entre 21h45 et 22h. D'ici là, vos questions sur YouTube, dans le chat. Vous pouvez commenter votre soirée. Il y a Vincent qui écrit, je me demande si Thibaut a envie de faire la libre antenne avec les drôles de dames parfois. Mais totalement. À quand Johan était resté une fois, un Polo, un Julien ou un Fredo dans la libre antenne. Les gars, l'invitation est lancée mercredi,
j'étais venu
jeudi.
J'étais après Dortmund PSG l'année dernière, j'étais venu un petit peu. Tu te rappelles ?
T'étais en. Oui, mais à distance toujours.
Oui, à distance.
Ah ouais,
oui.
C'est jusqu'à quelle heure ? 2h du mat, c'est ça ?
Une heure et demie des fois.
Ouais, mais
tu restes 20 minutes, une demi-heure,
Je t'envoie mon agent.
Je suis un vieux monsieur, moi maintenant c'est fini, c'est trop tard.
Mais tu es en retard le lendemain.
À une heure, moi je suis couché depuis. C'est fini Madrid où à une heure je commence à sortir.
Ah oui.
Non mais sérieux, ça m'arrivait après l'after, tu sortais.
Ah oui.
Mais là maintenant, je suis un vieux maintenant.
C'est parce qu'on m'a dit de toi effectivement.
À Paris, non. À Paris, je ne bouge pas une oreille.
Bon, en tout cas, retour de Libre Antenne mercredi, jeudi soir.
Avec vous tous, je vous écoute bien.
De toute façon, Fred, il n'y a plus rien à faire à Paris.
Pourquoi ?
Bah, tous les gens que je connais qui retournent encore à Paris, ça a changé, Paris, c'est fini.
C'est à cause d'Anne Hidalgo, c'est ça ?
Ah, il est pas
spécialement. Pas spécialement Anne Hidalgo.
À suivre.
Juste Thibaut, le début, bon, personne ne le voit évidemment en France, hein, mais le début du match de l'Atalanta est retardé.
Ah oui. Contre Como.
Ouais, parce que il pleut beaucoup dans le nord d'Italie depuis un certain temps, oui. Et depuis ces derniers jours.
Dans le sud de la France aussi.
Un déluge absolu. Et prochain check de la pelouse dans 10 minutes, là, 21h15. Et possiblement reporté à demain.
Bon, mais écoute, restez là parce que vous aurez l'info ici. De toute façon, vous ne pourrez pas voir le match. Donc restez bien sur RMC. C'est parti en Espagne entre le Betis et Mallorca. 0-0 après 5 minutes de jeu. À suivre, le derby milanais remporté par l'AC Milan, la minute de Polo. Mais d'abord, justement, Polo, avec toi, ce choc dont on se languit déjà. On n'est que lundi, ce sera ce week-end, mais on a hâte de ce Bayern Munich, Bayern Leverkusen. Encore plus après le week-end qu'on vient de vivre, Polo, où on a un Bayern en mode machine de guerre et un Bayern en mode Bayern Leverkusen. Ça ne s'arrêtera jamais, ce chabitane.
C'est assez extraordinaire parce que pour la première fois depuis longtemps, la presse allemande a utilisé le terme de machine pour le Bayern Munich en disant tiens, il se passe quelque chose finalement, etc. Évidemment, il va falloir parler du français Olise qui a fait une prestation XXL. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est le pressing tout-terrain du Bayern Munich qui se retrouve quasiment pendant 90 minutes dans les 30 mètres de Brême. Alors Brême, évidemment, avait réussi un bon début de saison. Et puis Brême-Werder, le Werder de Brême contre le Bayern, c'est un grand historique comme match. Donc on attend toujours des prestations importantes de Brême. Et bon, ça n'a pas été le cas.
5-0.
Olisette a fait une prestation hors du commun. Et ce qui a été différent, c'est qu'ils ont aussi eu en deuxième mi-temps une baisse de régime, étant faible comme on dit maintenant. Et d'habitude, ils craquaient un petit peu. C'était ce qui s'était passé contre Zagreb, les deux buts encaissés rapidement. C'était ce qui s'était passé à Wolfsburg notamment. Et là, eh ben, ils ont quand même réussi à marquer pendant leur temps faible. Donc c'est sans doute la prestation la plus aboutie sur Koupani. Et évidemment, la presse allemande là, a switché sur ce qui va se passer le week-end prochain, c'est-à-dire le Bayern va recevoir le champion, donc c'est le recordmaster, le recordman de titres qui va recevoir son champion. Est-ce que ça va être une passation de pouvoir ? Gros point d'interrogation. Mais c'est Kompany contre Alonso, c'est Harry Kane évidemment contre Boniface, c'est Kimmich qui a été replacé au milieu qui va affronter Xhaka, et puis il y a le duel des deux prodiges à nouveau, Moussiala contre Wirtz. Et de l'autre côté, l'ancien champion, il y a eu un match extraordinaire, mais je suis pas sûr que tous les coachs, lorsqu'ils voient les prestations défensives de Leverkusen quelquefois, se disent, finalement, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé avec le fameux Chabi Time, là, que, comme disait Daniel, le fameux gimmick. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils arrivent à s'en sortir, mais quand même, près de 80% de possession de balles contre Wolfsburg. Pour finalement un scénario assez extraordinaire, ils sont menés deux fois pendant la rencontre, notamment 3-2 pour finir à 4-3. Donc, est-ce que finalement, Leverkusen n'est pas en train de tirer un petit peu trop sur la corde et que le week-end prochain à Munich, ça risque d'être compliqué? C'est très difficile de lire Leverkusen, d'autant plus qu'en Ligue des Champions, ils se sont baladés à Feyenoord. Mais il y a aussi le fait que Xabi Alonso avait encore fait tourner ce week-end, et notamment, c'était pas tout à fait. Boniface n'était pas titulaire, même si c'est lui qui sauve l'équipe durant les arrêts de jeu pour le 4-3. Mais en tout cas, je peux t'assurer qu'en Allemagne. Ils sont chauds patates, ils sont comme moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas envie de regarder un match comme ça. Peut-être que ça arrive un peu trop dans la saison. Mais là, le football allemand, il se regarde souvent le nombril. Et là, il n'arrête pas. C'est la bedaine. C'est Munich contre Leverkusen l'année prochaine. Le reste n'existe pas.
Et ce sera samedi à 18h30. Un mot quand même de notre Français. Enfin, il y en a plusieurs. Mais Michael Olysee, le début de saison qu'il est en train de faire. En fait, c'est quoi ? Il va marquer deux buts à chaque match ?
Ben, c'est ce qu'il pourrait. Alors, au début, il était en concurrence avec Kingsley Coman et Serge Gnabry, qui revient très bien. Mais là, la prestation qu'il fait contre Brême et la facilité technique qu'il a fait que, quand même, il est peut-être un petit peu au-dessus. Donc, sur les quatre titulaires de devant, évidemment, Harry Kane est intouchable. Évidemment, Moussiala est dans une forme extraordinaire, tout comme son concurrent Wirtz. Mais celui qui semble naturel à droite, pour moi, c'est Olysee. Et on a l'impression que la pression glisse sur lui. Certains commencent à comparer avec Robben Ribéry. Alors moi, tu sais que j'aime bien, je vais me patienter un peu avant qu'il vienne d'arriver quand même, puis il a 22 ans. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu un tel talent depuis longtemps. Et je serais surpris quand même que le Bayern ait réussi à décrocher la timbale avec Olysee, alors que quand même, et je parle sous le contrôle de Juju, en première ligne, on doit vraiment savoir ce que vaut Olysee. Donc ça veut dire quand même que le Bayern est allé chercher un gamin qui est évidemment un talent fou, et on a presque envie de dire, mais ça va être le kill quatrième en attaque pour être monstrueux.
Alors Julien,
donc, c'est ça qui m'intéresse.
Sur Olysee, est-ce que déjà t'es surpris de le voir briller autant, et qu'est-ce qu'on en dit, ce qu'on en disait en Angleterre, quoi?
Non, pas surpris. On en avait parlé. On avait fait avant le match de l'équipe de France, un des deux matchs de l'équipe de France lors de la dernière trêve internationale. J'étais venu en parler un petit peu avec, je crois que c'était Nico qui était là en première partie d'émission avec Walid et toute la clique. Et non, je suis pas surpris. Je suis pas surpris par son adaptation, même si je pense que c'est pas facile, surtout pour quelqu'un qui est aussi introverti que lui. Et pourtant, il s'est adapté tellement vite. Après, je sais pas si, je pense que le Bayern est allé tellement vite, Polo, finalement, et ça s'est fait tellement rapidement que les Anglais ont soit pas pu réagir, soit pas pu venir dans la souvenir lutter pour le recruter, je sais pas, mais t'as raison, hein, c'est une honte absolue qu'il soit pas resté en première ligue, que t'aies pas un grand club anglais qui l'ait pris avant le Bayern, finalement.
Michael Olysee qui cartonne avec le Bayern en ce début de saison. Polo, dans quelques instants, ce sera ta minute à toi aussi. Je rappelle que ce Bayern, ce sera samedi 18h30, ce sera sur RMC bien évidemment. Dans un instant, la Serie A au programme avec ce derby de Milan remporté à la surprise générale. Enfin, tu nous diras, Johan, d'ailleurs, c'est surprise générale par le Milan de Fonseca. On est en direct jusqu'à 22h. Je vous rappelle, 32-16, hein, si vous avez des questions à poser au drôle de dame, n'hésitez pas, vous nous appelez. Et dans une demi-heure, vous êtes en direct sur RMC. Face à Johan Crochet, Polo Breitner, Fred Hermel et Julien Laurence. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, comme tous les lundis soirs, 20h-22h, Génération After en direct avec vous au 32-16. Dans une petite demi-heure, vous nous appelez, les drôles de dames sont face à vous. D'ici là, les équipes sans victoire en première ligue, il y en a 6 après 5 journées. Julien nous expliquera ce qui se passe. On parlera également du Real Madrid. Les minutes de Johan, de Polo, mais d'abord l'Italie, justement, et ce derby milanais, Johan, remporté par l'AC Milan. Oui, surprise, on est d'accord.
Oui, bah, quand tu fais les forces en présence avant le derby, ouais, et que tu vois la semaine qu'a passé l'AC Milan, les grandes difficultés, les résultats depuis le début de la saison, le match raté contre Liverpool, ou avec le stade, les siffles totalement à la fin. Alors, ceux qui étaient restés, parce qu'il y en a même qui sont partis largement avant la fin du match. Et de l'autre côté, l'Inter qui fait une prestation solide à City, qui a plutôt bien géré son début de saison, même s'il est les deux matchs nuls à l'extérieur, il y a quand même à boire et à manger. On se disait, voilà, ça peut être la 7e victoire consécutive dans un derby, ce qui n'était jamais arrivé. Et la série s'arrête à 6 parce que alors déjà, il y a le facteur Milan, c'est-à-dire que Paulo Fonseca, qui était quand même un peu sous pression, a fait des choix. On répète à chaque fois les choix
des
forts.
Des choix forts.
Ouais, mais c'est...
Non, mais je crois qu'ils se sont dit les choses, vraiment.
Ouais, dans exactement. Le groupe vit bien. Mais mais il a fait clairement des choix, c'est-à-dire mettre Morata et Abraham ensemble, c'est-à-dire double attaquant. Alors, même si Morata était derrière Abraham et que Fonseca a expliqué, on le voyait de toute façon au cours du match, que ce que des gens pensaient être un 4-4-2, c'était plus un 4-2-3 avec Morata
derrière Abraham, mais c'était quand même un choix beaucoup plus offensif que de mettre un Reinders en 10 ou un Loftus-Cheek qui sont des milieux de terrain en numéro 10. Le fait de mettre Gabia en défense centrale, c'était aussi un choix de Fonseca, alors que Pavlovic avait plutôt donné satisfaction depuis le début du championnat. Donc il y est allé avec courage, on va dire ça comme ça. Et Milan a encore fait un gros début de match, comme il l'avait fait contre Liverpool, sauf que Liverpool, ça avait duré 5 minutes à peine. Et contre l'Inter, ça a duré un quart d'heure. Mais encore une fois, le sentiment que ils essayent de gérer et ils ne sont pas encore en capacité de pouvoir gérer. Parce qu'après l'ouverture du score, bon, il y a eu encore 2-3 éclairs. Mais derrière, ils ont laissé le ballon à l'Inter. Ils ont laissé l'Inter revenir dans le match.
Di Marco ouvre Pulisic ouvre le score à la 10e. Di Marco égalise à la 27e.
Exactement. Avant le but en fin de match. Et puis jusqu'à la mi-temps, c'est quand même plutôt une domination de l'Inter où Thuram a une grosse occasion que Maignan détourne magnifiquement sur un tir croisé. Il y a quelques occasions pour l'Inter et on se dit... Bah, le match est un peu en train de basculer parce que le Milan a fait un bon début de match, mais derrière ils se sont arrêtés de jouer, ils ne pressent plus comme ils devraient presser, ils ressortent un peu moins les ballons, ils laissent beaucoup plus le ballon et les initiatives à l'Inter, donc on s'est dit attention. Et puis finalement l'Inter qui était très décevant malgré tout sur ce match-là, Simone Inzaghi, les joueurs disaient on n'a pas été l'Inter de d'habitude, on n'a pas été une équipe. Simone Inzaghi dit on n'a pas été une équipe. Ce qui est quand même très très rare chez lui, parce que depuis qu'il est arrivé à l'Inter, c'est toujours cohérent. Il y a des fois ça peut marcher, pas marcher, mais c'est globalement toujours cohérent.
Et surtout qu'il avait tout fait pour être en équipe.
Gérer les temps de jeu en
c'est
plus.
Ça. Contre City, on en avait
City,
parlé. Il avait fait
des joueurs qui avaient été au repos, d'autres qui étaient sortis en cours de match assez tôt. Donc l'excuse du physique, d'ailleurs il n'a pas du tout pris cette excuse-là, Simone Inzaghi. Il a juste dit Milan était meilleur, on n'a pas été une équipe. C'est en quelque sorte, vaut mieux que ça nous arrive maintenant que plus tard dans la saison. Mais effectivement, l'Inter a été très décevant. Le milieu de terrain n'a pas été du tout influent. Ce qui est quand même problématique parce que c'est le secteur clé de l'Inter. Hormis Di Marco et Bastoni qui ont essayé d'animer un peu le côté gauche et d'amener du dynamisme, de l'allant, des centres, un peu de percussion, c'était trop compliqué. Et Milan a bien géré son affaire, a été toujours sur. Toujours vivant dans ce match, dans le sens où même s'ils ont été un peu passifs par moment, on avait le sentiment qu'en transition, ils pouvaient largement régler l'affaire et ils ont eu beaucoup, beaucoup d'opportunités en deuxième mi-temps en transition parce que Milan est une équipe aussi qui a des joueurs qui vont très vite vers l'avant et ça leur donnera peut-être des idées où parfois, quand on est un peu en difficulté dans le jeu traditionnel, bah, on peut laisser un peu le ballon à l'adversaire en faisant attention de ne pas trop subir non plus et de piquer en contre et pas simplement avec l'opportunité Léao. On sait que Léao va très vite, mais c'est pas le seul à aller vite, à bien se projeter. Les milieux de terrain, Reinders fait une deuxième mi-temps très très, très très impactante.
Un peu tôt pour dire que le Fonseca Ball est lancé, parce que c'est vrai qu'il y a une semaine on parlait déjà de son départ éventuel. Bon, il fallait du résultat là de toute façon.
La caisse de résonance d'un grand club fait que au bout de deux matchs, ça peut être une crise. Donc évidemment que Milan a été dans cette position-là où les supporters en plus n'étaient pas contents. Donc ça fait tout ça une espèce de grosse caisse de résonance qu'on a tout de suite dit. Parce que mine de rien, avant le match, Milan, ils sont à 3 points de l'Inter. L'Inter, c'est ciel serein. Pas un mot dans la presse sur une éventuelle crise. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux.
Oui.
Donc il n'y avait pas un écart trop important. Et pourtant, on a l'impression que c'était la fin du monde sur une partie de la ville. Et de l'autre côté, il faisait grand soleil. C'est un peu différent. Évidemment que les supporters ont eu un rôle aussi dans toute cette ébullition négative autour de Milan parce qu'ils ont manifesté clairement leur désapprobation. Quand on parlait de Lina Soulcou, par exemple, qui avait un service de sécurité à Rome, bah, il faut savoir qu'à Milan, on avait mis des choses en place aussi autour des dirigeants avant le match-là. Donc, moi, je pense que c'est un bol d'air frais. Je pense que ça donne beaucoup de conviction à Fonseca vis-à-vis de son groupe et même vis-à-vis de la presse aussi, parce que tout le monde a bien noté que Milan a vraiment dominé l'Inter, pas forcément ballon au pied, mais dans le déroulé du match, ils ont été les meilleurs tout simplement sur ce derby-là. On verra, je ne suis pas persuadé que ça change forcément toute la face à l'instant T de Milan. En tout cas, ça donne quelques jours sereins pour retravailler, mais ça va demander confirmation. C'est ça les grands clubs, c'est que je disais en deux matchs, ça peut être la crise. Vous gagnez contre l'Inter et derrière vous faites match nul contre Lecce ou vous perdez à Lecce, ça sera le même bazar derrière. Donc
Lecce dans les pouilles.
Lecce dans les pouilles aussi, et je crois que c'est à domicile d'ailleurs le match. Mais c'est pour dire que Fonseca il travaille, il met les choses en place, il travaille beaucoup. C'est pas un mec qui est Quand on parlait de cet été d'un Antonio Conte que les supporters voulaient, mec ultra charismatique, qui emporte tout derrière lui, l'adhésion des supporters, etc. Fonseca est un petit peu différent, dans un registre différent, c'est ce que voulait aussi Milan. Mais ça bosse dans un environnement qui n'est pas toujours très simple.
Et après, il y a une constante dans cette Serie A qu'on ne voit pas en France, c'est que les gros galèrent depuis le début de saison. Bon. Là, le Torino, leader avec 11 points, donc c'est 5 journées, hein, devant le Napoli, okay, qui est là avec 10 points. Derrière, c'est l'Udinese, 10 points, la Juve, Empoli.
Mais c'est, moi, ce n'est pas tant le classement, même si ça compte, effectivement, c'est de me dire qu'il y a un seul gros club qui a 2 points par match depuis le début de la saison. C'est le Napoli. Tous les autres... Juve, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, même si ils avaient un match de moins avant le début de cette soirée-là, même s'ils le gagnaient, ils ne seraient pas à 2 points par match. Et effectivement, globalement, moi je ne suis pas très satisfait du début de saison d'un peu tout le monde. Je m'attends à beaucoup mieux, même si on pouvait dire beaucoup de clubs ont changé. La Juve a changé, le Napoli a changé, la Lazio a changé, la Fiorentina a changé, le Milan a changé. Donc effectivement, beaucoup de clubs avaient... commencer une sorte de petite révolution dans le jeu et dans le commandement de l'équipe cette saison, cet été. Mais c'est assez décevant pour le moment. Je trouve que même Daniel me disait en semaine oui, c'est pas si mal les résultats en Ligue des Champions. Moi, aussi bien sur la prestation que sur les résultats, je suis pas très satisfait du début de saison des gros clubs italiens.
Les Espagnols en plus, ça n'a pas été terrible. Hein.
Ouais. Oui, mais après, ils prennent les points, les gros, quand même, quoi, par rapport à l'Italie. Ou...
Bah non, le Barça a perdu.
Ah non, oui, d'accord, mais je parlais
en Ligue des Champions. Oui, ah oui, non, je parlais en Ligue des Champions, je parle des résultats. Ligue des Champions, le Real a souffert contre Stuttgart. Gérone a lutté contre le PSG, mais a perdu.
C'est vrai, les clubs Monaco, français sont Monaco, les gars.
Ouais, mais c'est ça.
3 victoires sur 4, à un moment donné,
Monaco, nous, on perd les gars. Bah, le Barça. Après, alors,
c'est ça la nouvelle Ligue des Champions.
Le seul truc, je peux permettre un truc.
Allez, vite.
Je pense que, enfin, ce match, je pense qu'on.
Lequel
la victoire de Monaco sur le Barça.
Quoi ?
Le Barça a joué, en comptant le temps additionnel, 90 minutes à 10 contre 11 quand même.
Et donc ?
Excuse-moi, enfin c'est bravo à Monaco.
Bah oui.
Mais enfin, les dés sont un peu pipés quoi. C'est pas. Après, c'est de la faute de.
Ah voilà,
de...
on peut se dire que Monaco a provoqué aussi.
Oui, c'est surtout une connerie.
Il y a des clubs qui passent tout un match à 10 contre 11 et qui gagnent, comme Marseille hier. Tu
vois, oui, non, mais je veux dire à ce niveau-là. Mais je trouve que Monaco a très bien joué. Je ne veux pas enlever de mérite à Monaco.
Un petit peu,
mais je veux dire que je ne veux pas casser le Barça pour leur défaite à Monaco. Tu vois, parce que. Tu vois, il y avait 4 minutes à la mi-temps de temps additionnel, 6 minutes à la fin. 90 minutes à 10 contre 11, quoi.
Ouais, mais tu vois, profiter de cette tribune qui t'est offerte dans les drôles de dames pour descendre Monaco, c'est pas
et
beau.
Je descends pas du tout Monaco.
C'est pas beau, Fredo.
Je descends pas du tout.
Et juste pour terminer sur le derby, on a mis beaucoup l'accent sur Milan parce que c'est le vainqueur et c'est normal. Mais grosse déception du côté de l'Inter. Grosse déception. Je m'attendais pas à ça. Et sans doute que l'environnement autour du club a été aussi entendu par les joueurs parce qu'ils ont été vraiment, je trouve, en dilettante. Et tout ce qu'ils ont entendu cette semaine, Milan, club en crise, regardez comme ils se sont fait humilier par Liverpool, ça va pas, les supporters gueulent, les dirigeants ils sont contestés, Paulo Fonseca est contesté, le cooling break de Théo, de Léao, bidule, machin truc. Peut-être qu'ils se sont dit, bah les gars, doigt dans le nez, le derby.
Ouais, un peu comme peut-être le Barça contre Monaco. Dans quelques minutes, tu nous parleras du Real. Justement, Fredo, on va parler également de la Première Ligue, où là c'est en bas que les équipes n'arrivent pas à gagner avec Julien. Mais d'abord, tout de suite, c'est la minute de Paulo.
Mon Polo. C'est Herbert Grönemeyer aussi quand même, la plus grande voix actuelle, le grand chanteur de la musique allemande. On a eu un débat très intéressant avec Fred d'ailleurs cette semaine ou la semaine dernière sur la musique allemande. Donc la musique s'appelle Chaos, Chaos évidemment en français, c'est pas le plus dur à traduire. Pourquoi est-ce que je parle ça? C'est qu'on se rend compte une fois de plus que les clubs qui ne vont pas bien sur le long terme, eh ben, sont des clubs, par exemple, qui passent leur vie à changer d'entraîneur ou à changer 3 fois en 6 ans de directeur sportif. Là, je suis allé faire un petit tour en seconde division, évidemment, et le duo belge Marc Van Bommel et Gerrits ont été licenciés. On les a enlevés de leur poste. En tout cas, je regarde Hoffenheim, où le coach Matarazzo risque de sauter. Ce serait tout simplement, si on y en avait un nouveau, ce serait le 7e qui arriverait depuis 2019. On pourrait d'ailleurs, dans la période un peu compliquée du Bayern post-2020, regarder le nombre d'entraîneurs qui sont passés et se rendre compte que c'est peut-être l'une des explications qu'on n'a jamais le temps
de donner vraiment sa chance à un coach. Tout ça fait qu'en gros, en Allemagne, on se dit, ben, y a ceux qui bossent bien, et puis il y a les coachs, où il y a les clubs, où il y a les dirigeants qui, dès que ça ne va pas, ben, ils font sauter les entraîneurs, voire les directeurs sportifs. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément quelque chose de très positif. Donc, faisons confiance aux coachs à partir du moment où ils ont toujours la confiance du vestiaire, bien entendu. Voilà.
Et quand vous débattez de musique, Fredo et Polo, vous parlez de quoi du coup ? C'est quoi le débat ?
En fait, on s'était parlé au téléphone, parce qu'on se parle aussi. On a une vie en dehors de l'émission.
On veut savoir les rôles de dames en dehors de
l'émission. Non, mais on parle de Thibaut Grandjeande. On parle de Thibaut Grandjeande, on dit des méchancetés.
Voilà, ça fait un mot jingle. Ouais,
et respect du long de
l'émission. Je veux dire qu'un jour, il fallait en parler. On a dit 30 secondes pour expliquer pourquoi c'est si facile pour Julien de trouver des chansons super toutes les semaines. Parce qu'il y a la chanson anglaise, c'est un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire ?
Et que vous galérez
plus. Pourquoi c'est plutôt facile pour moi, puisque j'ai l'Amérique latine, tu vois, il y a tellement de créativité, etc. Aussi, parce que ça a à voir avec la dictature, parce que la dictature franquiste favorisait aussi la musique. Alors que l'histoire de l'Allemagne, et je passe la balle à Polo, pourquoi pour Polo c'est si difficile de trouver des belles chansons allemandes ?
Ben parce qu'ils sont quasiment tous partis dans les années 30, et notamment aux États-Unis.
Ah oui.
Et finalement, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un renouveau. Il a fallu dénazifier notamment les Allemands, qui était un truc à la mode. Donc, on a trouvé ça au cinéma. Il suffit de voir le nombre de réalisateurs, par exemple, juifs allemands en Allemagne. C'est eux qui ont fait l'histoire d'Hollywood, en fait. Et donc, tout ça fait que la culture de la musique a mis du temps à se remettre en place. Et c'est pour ça qu'on trouve Nena qui débarque dans les années 80. Et c'est un truc assez fabuleux. C'est ça. Et quand ces choses comme ça arrivent, quand des choses comme ça arrivent, culturellement, c'est difficile de retrouver d'un seul coup, musicalement, alors que la musique classique allemande, et on va dire du monde alémanique, parce qu'il faut rajouter l'Autriche et tout ça, est extraordinaire, ils n'ont pas eu le tremplin, mais vous avez la même chose au cinéma. Je rappelle juste une chose, avant le nazisme, l'Allemagne produisait plus de films que l'ensemble de l'Europe. Et ça, c'est les fameux studios de Babelsberg. Et aujourd'hui, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué.
Merci Polo.
C'est pareil.
Non, mais je trouve ça passionnant.
Merci Fredo. C'est ça aussi, les drôles de dames.
Mais les drôles de dames aussi. Mais c'est aussi pour expliquer une chose, c'est que nos footballs ne sont pas compréhensibles sans le contexte économique, politique, social et historique.
Et merci à vous.
Et ça,
de nous expliquer tout
et
ça.
Et moi, j'aime cette émission pour ça.
Il reste la minute de Johan Crochet, justement. Pression, Johan, sur ton choix musical ce soir, après tout ce qui vient d'être dit. On va parler également.
Pour une raison très simple aussi.
De l'Angleterre et du Real Madrid.
C'est une culture de musique en Italie, naturellement. Et la culture des régions et tout ça fait que. Voilà, il y a une tradition, et puis tous les festivals, etc. Enfin, je veux dire, c'est tellement inclus à la vie quotidienne des Italiens.
Et Rossera Mazzotti,
tout ça. Il y a la langue qui aide aussi.
Elle aussi, ça aussi. C'est vrai.
21h45, 32-16. Vos choix musicaux, si vous voulez.
Vous
avez vu la reprise avec Gim, ça a été bien celle-là. Allez, les drôles de dames continuent. Fred Hermel, Polo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Vous êtes sur RMC 21h31. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, comme tous les soirs, jusqu'à 22h. Ensuite, ce sera l'after avec Nico Jamin, Daniel Riolo et Florent Gautreau ce soir, jusqu'à minuit. D'ici là, 21h45, dans 10 minutes. C'est vous qui avez la parole. Le 32-16, les drôles de dames face à vous, vous nous appelez, vous posez vos questions. N'hésitez pas, Adrien vous attend au standard, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'after. Vous êtes nombreux ce soir. Merci beaucoup, portez en débat Gims. Il y a Chris qui écrit. Il est encore là, Juju Laurence. Il parle pas. Vous êtes sûr qu'il n'est pas en train de faire une double pitch sur ESPN?
Pas là, non. Non, mais j'écoutais, moi, je trouve ça passionnant. Après, c'est pas toujours quelque chose à dire sur les autres championnats ou les pourris de Fred sur la musique ou l'Allemagne des années 30.
Justement, la transition est parfaite parce que c'est à toi, Julien, de nous parler de ta première ligue et de ces équipes après 5 journées qui n'ont pas gagné un match.
Ouais, ça fait 6 maintenant. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Première Ligue, donc depuis 1992-93. Ah oui. J'ai regardé avant, je me suis arrêté à la saison 83-84 parce que ça commençait à me saouler. Et puis surtout, je me dis que peut-être c'est jamais arrivé finalement, parce que même jusqu'à 83-84, c'est pas arrivé non plus. Effectivement, Leicester, Crystal Palace, Ipswich, Southampton, Everton et Wolverhampton. Donc 6 équipes avec 0 victoire pour l'instant en 5 rencontres. Donc encore une fois, c'est jamais arrivé. On a eu 4 par le passé, on a eu une fois 5. On a eu aussi, tout le monde avait gagné au moins une fois, une seule équipe n'avait pas gagné encore. Et sincèrement, j'ai trouvé ça super intéressant sans vraiment savoir quoi en faire en fait. Donc et c'est oui, pour c'est ça, et j'ai regardé chez les autres. Je crois qu'en Ligue 1, il n'y a que Angers qui n'a pas gagné. En Ligue 1, il n'y a que Angers. Et après, chez les copains, c'est trois clubs en Espagne et en Allemagne, je crois. Et puis peut-être que 2 chez Yo. Ouais. Donc je ne sais pas, mais 6, ça me paraît quand même énorme. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose peut-être un peu plus à creuser dans un sens, dans le sens que c'est peut-être que la Première Ligue commence vraiment à être inégale. Dans le sens où ces clubs-là que je viens de mentionner, notamment les trois promus, Leicester, Southampton et Ipswich, c'est vraiment très 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 moyen. Et même quand ils s'affrontent comme le week-end dernier entre Southampton et Ipswich, bah, ils font match nul, donc ils sont même pas capables de se battre les uns avec les autres. Donc on arrive vraiment à un niveau où tu touches le fond finalement. Peut-être qu'aussi cette Première Ligue, elle est moins forte qu'avant dans son ensemble. Donc collectivement, je parle pas juste de City ou d'Arsenal ou de Liverpool, mais dans son niveau d'ensemble, peut-être aussi que les plus forts n'attirent pas non plus les plus petits vers le haut. Au contraire, peut-être que c'est l'inverse, peut-être qui se passe, et peut-être aussi que le Championship, qui avait souvent été un très bon championnat, où même quand tu montais, même si tu te maintenais pas à chaque fois, tu faisais quand même souvent bonne figure. Peut-être que là, l'écart est devenu trop grand maintenant entre la Première Ligue et le Championship aussi. Donc même quand tu montes, bah, tu galères. Et quand tu galères dès le début de saison, c'est pas bon. Après, je pense que dans ces clubs-là, un club comme Crystal Palace, par exemple, avec Glasner, c'est qu'une question de... Voilà, ça va arriver. Je pense pas qu'ils vont descendre. Je pense pas qu'ils vont rester dans les 6 derniers comme ça très longtemps non plus. Ils ont trop de bons joueurs, un trop bon entraîneur pour être comme ça. Mais un club comme Wolverhampton, par exemple, qui a certes eu un calendrier assez compliqué... Peut-être que c'est inquiétant, en plus des 3 promus. Voilà, c'est pour ça. J'ai trouvé ça assez fascinant et je voulais juste en parler parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est jamais arrivé. Donc voilà, je trouve ça assez rare et ça méritait d'être
signalé. Jamais arrivé, au moins jusqu'en 83. Parce qu'après, t'as eu la flemme.
Voilà, après si quelqu'un veut le faire, ils peuvent le faire. Mais exactement. Ça faisait une demi-heure, j'étais dessus déjà.
On compte sur vous nous dites dans le chat ou sur le direct studio. En Espagne,
Fredo. Il y a un message, quelqu'un dit Fred, de dos, tu as du ventre. Comment on peut avoir du dos de ventre? Du ventre de dos.
Ah, je pense que ça doit partir sur les côtés.
C'est large.
Ouais. Il y a peut-être la.
J'ai pas compris là.
Il y a la
boîte qui me vante de faire attention. Regarde, j'ai maigri quand même.
Ça déborde sur le côté quoi.
Ouais, c'est ça.
Ah non, il y a pas.
Des deux côtés quoi, non?
Non, je suis un peu déçu parce que d'habitude on me dit sur le chat, ah ouais, t'as maigri et tout. Donc.
Bah là, t'en es où en ce moment?
Bah toujours. Je tiens.
Non, je pense que là, c'est en plus t-shirt noir, on voit pas trop. Je pense que.
Non,
c'était juste. Non, parce que c'est juste bienveillant.
On est quand on est sur YouTube, tout ça, faut faire attention. Tu vois,
j'ai coiffé.
Yann aussi s'est coiffé.
Un peu trop de gel ce soir, d'ailleurs, Fredo. L'Espagne, Fredo, et ce Real Madrid qui monte en puissance. Alors, c'est une question, en fait. Est-ce qu'il monte en puissance? En tout cas, une chose est sûre, c'est que Mbappé, Vinicius et Rodrigo ont marqué ce week-end. Et c'est la première fois qu'ils marquent ensemble.
Oui, voilà, parce qu'on a le souvenir de la 4-1 BBC.
Contre l'Espagne.
Voilà. On a le souvenir du match contre la BBC. Enfin, de la BBC. Bon, je vous rappelle, hein, BBC, c'était
Bale,
Benzema, Ronaldo. Bon, là, c'est la MRV. Franchement, ça passera moins bien. BBC, ça reste, parce que c'était BBC, ouais. BBC, tu vois. Mmh. Après, le MRV...
Non, c'est pas ouf.
Mbappé, Rodrigo, Vinicius, côté
RM.
Non, mais ça va pas le faire. Mais après, ils ont marqué.
Est-ce que ça va le faire sur le terrain, du coup?
Ouais. Oui, parce qu'en fait, je trouve... Alors, c'est l'Espagnol, c'est un promu... ils ont mis du temps à marquer, mais tu savais que le Real allait gagner. Ils ont été, il faut le souligner, une erreur gravissime, une bourde de Courtois.
Ah ouais.
Inimaginable.
Il faut le voir, c'est une madjère.
C'est une madjère, mais il se met lui-même. C'est
magnifique.
Quoi, tu vois, donc,
Et
donc, mais malgré tout, tu savais que le Real allait gagner. Parce que là, ils commencent à combiner. Et je pense que le match contre Stuttgart a été important parce que. Ils ont pris conscience de la réalité aussi du niveau en Europe contre en disant il faut augmenter le niveau, et j'ai trouvé le Real très intéressant dans le jeu, mieux physiquement et bien dans les combinaisons en fait.
que ce sont les combinaisons qui provoquent aussi la vitesse. Hein. Mmh. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Vinicius était sur le banc parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a de nouveau un match demain soir, hein, parce qu'il y a une journée en semaine, en Espagne cette semaine.
Un partout d'ailleurs, là, Bétis.
Bétis avec un rouge sur l'Ocaso qui a été annulé, mais c'est assez violent quand même. Et donc on se retrouve avec un Real Madrid, on sent que la mayonnaise est en train de prendre. Et ça, c'est plutôt positif. On va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines.
Mbappé qui a mis un penalty encore.
Ouais, mais il aimait bien. Ah oui. Mais Mbappé, si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 buts en 8 matchs.
Dont 3
penalty.
3 penalty.
3 ou 4, enfin bref. Mais il faut les mettre, je suis désolé. Oui. À la fin de la saison, enfin, quand c'était Cristiano et Messi, on comptait pas le nombre de pénalty.
Exactement.
Donc Mbappé est le meilleur buteur du Real Madrid. Donc voilà, les choses commencent à se mettre en place, mais il y a le gros test, hein, et on en parlera. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. À 20h.
On sera là, je pense.
Ce sera encore toi ?
Faut demander au chef, mais je pense que oui.
Ouais, t'es sympa, t'es bien. Franchement, on garde.
Flatteur.
Il y a le derby Atlético Real ce week-end.
Ah.
Et là.
Ça va être un gros week-end, hein. Entre ça, le Bayern également. Dans un instant, 32-16, vous posez vos questions au drôle de dame. Ce sera juste après la minute de Yoann Crochet, tout de suite sur RMC.
Quel lover celui-ci quand même là.
Ministri la nostra buona stella.
Ça veut dire ?
Alors monsieur Jean Grand qui a fait italien.
Arrière-grand-père, du coup je l'ai pas.
Notre bonne étoile.
Ah ok.
Notre bonne étoile, évidemment, pour évoquer Toto Schillaci, héros du mondial 90, évidemment, décédé à l'âge de 59 ans. La semaine dernière. Héros d'un tournoi, joueur d'un tournoi, la carrière faite quasiment sur un tournoi, j'exagère un peu puisqu'il avait été bon à Messine, passé rapidement par la Juve et par l'Inter. Mais c'était le héros de tout un pays sur cet été 90, les notes magiques, les nuits magiques du Mondial 90 qui avaient lieu en Italie avec beaucoup d'espoir de voir la Nationale remporter cette Coupe du Monde. Ça n'avait pas été au bout, c'était pas la plus belle Nationale pour le coup, mais elle était portée par un attaquant qui sortait quasiment de nulle part. Et c'est ça aussi qui avait fait son charme, c'est que tous les Italiens, c'est pas qu'ils se reconnaissaient, mais tous les Italiens ont rêvé un jour d'être personne et d'être l'attaquant de la Nationale ou d'être le numéro 10 de la Nationale. Et lui avait réussi ça, c'est-à-dire d'être un attaquant bon mais sans plus, de venir pendant quelques semaines, un mois et demi, le héros d'une nation qui se rêvait d'avoir un nouveau mondial et une nouvelle étoile sur son maillot. C'est quelqu'un qui générait l'affection de tout un pays, lui le Sicilien, on sait que les Siciliens sont pas toujours très bien vus dans tout le pays et les gens du Sud de manière plus générale. Et malgré tout, lui, à travers cet exploit sportif, avait réussi à se créer une sympathie énorme en Italie. Donc ça a été évidemment un énorme moment de tristesse. Ce week-end, on avait une minute de silence sur tous les stades italiens.
Des très bien respectés.
Très bien respecté, émouvant aussi, hormis par quelques imbéciles du parquage napolitain, mais globalement très très bien respecté. Et effectivement, toute la semaine, on a refait un peu la carrière de Toto Schillaci, à la fois évidemment ce qu'il avait fait sur le terrain, mais aussi ce qu'il représentait pour beaucoup d'Italiens, et notamment je pense à Daniel, qui a souvent parlé de Toto Schillaci et ce qu'il représentait pour lui, pour les gens de cette génération-là. Ça a été un homme et un joueur très particulier.
Exceptionnel avec l'Italie en 90. Et Daniel sera là dans un quart d'heure pour l'after avec Flo Gautreau et Nico Jamin. D'ici là, c'est vous. On attend au 32-16. Vous nous appelez, vous posez vos questions au drôle de dame. Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Yoann Crochet, encore un quart d'heure avec vous. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giongrande.
L'after arrive dans 10 minutes. Daniel Riolo, Florent Gautreau et Nico Jamin jusqu'à minuit. D'ici là, les drôles de dames sont encore là pour une dizaine de minutes. Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Yoann Crochet et elles sont toutes à vous. Comme toutes les semaines, dans le dernier quart d'heure, vous nous appelez au 32-16, vous leur posez toutes vos questions. On est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'after.
On vient de parler de spaghetti au beurre et à la truffe avec Yoann et là j'ai faim.
Oui, bah ça donne faim aussi. Ouais. J'ai mangé mon taboulé sous-piqué juste avant, tu vois, et là, ça n'a pas souci. Et on a Kimo qui nous a appelé au 32-16. Salut Kimo.
Bonsoir à tous.
C'est de quelle origine, ton prénom ?
Salut Kimo. C'est Karim, mon vrai prénom, c'est mon surnom, voilà.
Ok.
Voilà, du coup, voilà, je vais te poser une question. On s'est eu il y a un an, on parlait d'un joueur et t'attendais de voir, tu me disais, t'étais un peu, on va dire, dubitatif parce que tu disais que c'est peut-être un homme de One Season Wonder et en fait, il continue et ça, c'est un certain Omar Marmouche. Je voulais savoir ce que t'en penses maintenant.
Polo.
Ah, c'est, oui, pardon. Oui, on est d'accord. Il fait une saison extraordinaire. N'oublions pas que Francfort est, à mon avis, l'une des deux équipes avec Stuttgart à suivre cette saison. Et Marmouche, c'est vrai qu'entre celui qui était à Wolfsburg et qui ne mettait pas un but et celui qu'il est aujourd'hui à Francfort, il y a une véritable différence. Et c'est lui qui porte l'équipe pour le moment, c'est très clair. Maintenant, avec Götze, avec Scheibi, avec Ikiteke, tu sais qu'on parle de lui pour qu'il marque 25 buts cette saison. J'étais d'ailleurs cet après-midi avec l'une des personnes avec qui je travaille, qui est supporter de Francfort, et qui rigole tranquillement lorsqu'il voit que Kolo Muani est parti au PSG, que Pacho est parti au PSG, et que le Francfort a récupéré l'ancien joueur parisien. Mais pour Marmouche, je suis d'accord avec toi. La question que je me pose toujours, c'est où est-ce qu'on le met ? Est-ce qu'on le fait jouer derrière un joueur d'1m90, etc. Ou est-ce qu'on le laisse comme maintenant, un peu libre de ses mouvements ? Mais c'est vrai qu'il est dans la forme de sa vie pour le moment, à lui de confirmer.
4 buts et une passe D déjà en Bundesliga, ouais, depuis le début de la saison. Merci Kimo, à bientôt.
Merci, bonsoir.
Bonne soirée, beaucoup d'appels au 32-16. On a Aurélien qui est là. Salut Aurélien, bienvenue sur RMC.
Salut les gars, vous allez bien ?
Pleine forme. Aurélien, tu as une question pour Julien.
Ouais, c'est ça Julien, salut, ça va ?
Salut Aurélien, ça va et toi ?
Ouais, ça va. Ouais, j'ai appelé pour ce que j'aime bien suivre un peu les anciens joueurs de Ligue 1 qui vont notamment en Première Ligue. Et il y a un joueur qui performe depuis 2-3 saisons, c'est Brian Bemo. Ouais. Et je voulais savoir un petit peu s'il y avait des clubs qui suivaient par rapport à ses performances, parce qu'il est assez régulier depuis qu'il est en Première Ligue. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était pour lui.
Ouais, t'as raison. J'étais très surpris cet été que personne vienne vraiment le chercher. Il a que 25 ans en plus, donc il est encore super jeune et avec, je pense, encore belle marge de progression. Tu vois, il a marqué un très joli but ce week-end contre Tottenham, même si je pense qu'il fait tibia un petit peu, mais c'est pas grave. Il était dans une bonne position, il a fini bien quand même. Il en est déjà à 4 buts en 6 matchs de Première Ligue cette saison. Je crois que les deux dernières saisons, c'est 9 buts ou 10 buts en championnat aussi, un truc comme ça. Donc il y a cette régularité.
Ça marche bien avec
Wissa. Avec Wissa ou Tony. Ouais, alors là, Wissa, ils ont perdu Wissa pour 2 mois et demi, mais même avant avec Tony, moi je pense qu'il peut jouer seul en pointe avec deux ailiers. Brian, il peut jouer derrière un attaquant, tu vois, en deuxième attaquant, un attaquant de soutien, parce qu'il a cette vitesse, il a un pied gauche qui est vraiment très intéressant. En plus, c'est un super bon gars dans un groupe, etc. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu surpris que finalement, t'es pas un club un peu plus huppé, on va dire, que Brentford soit venu le chercher cet été. Mais s'il continue comme ça, 4 buts après 6 journées, il est tout en haut, tu vois, du classement des buteurs, quoi, derrière Haaland. Mais par rapport aux autres, c'est très très bien. Donc, la saison dernière, il avait aussi très bien commencé. Après, ça avait été peut-être un petit peu plus compliqué, un peu plus inconstant, on va dire. Mais s'il trouve cette constance-là, je pense que très rapidement, il pourrait aller dans un meilleur club. Ouais.
Voilà Aurélien, merci d'avoir été là.
Merci, salut les gars.
À bientôt, bye bye. Ciao. 21h52, on a Mimoun qui est là au 32-16. Salut Mimoun.
Salut l'équipe, ça va ?
Ça va. Mimoun. Tiens, élève Hermel, reconcentrez-vous.
Oui, alors j'étais en train de...
C'est une question pour vous, oui.
Oui, non, j'ai bougé parce que je cherchais un renseignement pour Daniel.
D'accord.
Voilà, parce qu'on travaille pour son intervention d'après.
Ça fait bien marrer Daniel.
C'est vrai, quoi. Mais on bosse. C'est pas parce que nous, on termine à 22h qu'on n'a pas le droit de filer des coups de main à ceux qui arrivent après 22h.
Bon, Mimoun, t'as une question pour Mimoun.
Vas-y, je t'écoute.
Ouais, pas de souci. Bah, déjà, grand fan de Fred. Dommage qu'on l'entend un peu moins, même si, bon, il fait autre chose.
Ouais, mais.
Il
se rattrape le lundi, t'as vu.
Oui, je t'entends tout le lundi.
Heureusement, parce qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Mais enfin, bref, moi, je suis pas très objectif. J'aime bien Fred.
C'est gentil. Puis, il y a le podcast Espagne. Aujourd'hui, c'est sur Fernand Mendy aussi.
J'ai entendu ça aujourd'hui et je vais en faire partie.
Ouais, c'est gentil. C'est la nouveauté, je le rappelle, de la saison, les podcasts Drôles de Dames, les 4, After Angleterre, After Italie, After Allemagne, After Espagne, toutes les semaines, un podcast pour aller encore plus en profondeur dans les sujets avec vos Drôles de Dames. Vas-y Mimoun,
quelle est ta question ?
Alors ma question, elle est assez simple. Voilà, actuellement, on sait que Vinicius, sur l'aile gauche, on va dire, il est intouchable parce que actuellement, il est meilleur. Mais je me posais la question parce que je sais que le Real a sûrement en ligne de mire Haaland, éventuellement c'est en fin de contrat ou peut-être un an avant, je ne sais rien. Et je me posais la question, vu qu'il y a quelques petits soucis extra-sportifs avec, avec Vinicius et que le Real le soutient officiellement et sûrement officieusement. Mais est-ce qu'avec le temps, éventuellement dans un an ou plus, vu qu'il y a aussi les sirènes de l'Arabie Saoudite, est-ce que ce ne serait pas envisageable de voir le Real donc, se positionner sur Haaland et de ne pas pousser Vinicius dehors, mais d'accepter éventuellement une offre pour remettre Mbappé sur le côté gauche? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable?
Ah, tu sais, moi dans le football, j'ai vu tellement de trucs dingues que je ne peux dire non à rien. Comme il y avait cette offre d'Arabie Saoudite monstrueuse pour Vinicius, puisque ça représentait
100 millions l'année, c'était ça,
c'était,
ça.
En fait, c'était 1 milliard sur 5 ans. Ouais, donc, est-ce qu'à un moment, Vinicius va se laisser attraper par ces sirènes-là? On ne sait pas. Le Real dit que c'est la clause à 1 milliard. Bon, à mon avis, s'ils mettent 500 millions en fin de saison, ça peut le faire. Ouais. Haaland est un vieux rêve du Real. Oui, c'est. On avait même parlé, et je parle sous le contrôle de Julien, que lors de son premier contrat avec City, dans la fameuse, ouais. D'ailleurs son contrat, une clause de possible sortie pour le Real Madrid. Elle est réelle cette clause, Julien.
Ok.
Donc,
on sait toujours pas.
On sait, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'Haaland aujourd'hui est près du Real? Non. Est-ce que dans l'avenir, il est encore très jeune? Hein. Il est encore très très jeune, donc c'est.
On pourra le voir un jour peut-être.
C'est une possibilité.
Mimoun, merci d'avoir été là.
Et bonne soirée. Merci.
À bientôt. Bye bye. Tiens, c'est la mi-temps entre le Betis et Mallorca, un partout. Et Johan, Atalanta Com. On ne le verra pas ce soir. On l'aurait pas vu dans tous les cas.
Non, reporté. Trop de pluie. Et bien. Le ballon ne roulait pas au Gavi Stadium, ce qui est dommage parce que ça aurait été le premier match en championnat avec le stade complètement terminé. Investissement d'une centaine de millions d'euros et très beau stade.
Et mais dans les pouilles, il pleut pas.
S'il y a des chats noirs qui vont dans les poules,
attention.
Il peut pleuvoir.
Merci les gars, merci les drôles de dames. Bonne soirée à vous, bonne
merci.
Semaine. On vous retrouve dès mercredi pour cette semaine de Ligue Europa. Merci à Jimmy qui a bossé sur cette émission. Dans un instant, l'after avec Daniel Riolo, Flo Gautreau, Nico Jamin. Merci à vous d'avoir été là sur les drôles de dames. Bonne soirée, ciao.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.